Bonjour! Incroyable! Bonjour tout le monde, bienvenue! Ça roule? Ça roule depuis hier? De retour au taf. Du coup, c'est pas aujourd'hui Backseat, c'est quand le prochain? C'est la semaine prochaine. La reprise de Backseat jeudi prochain. Ah, c'est les congés là. C'est les congés, congés de l'Assemblée nationale, congés de Backseat. Incroyable quoi. Semaine d'éval. Oh ça va, tu vas d'être ça. Toujours cette superbe barbe. Je suis allé chez le barbeur hier. Je suis allé chez le barbeur. Ça faisait longtemps que j'avais pas entendu du SCH. Je me suis dit où est-ce que je peux en écouter? Chez le barbeur. Donc je suis allé chez le barbeur. Et il n'y avait pas de SCH. Adèle Barbeur. Exactement. C'est Adèle qui m'a fait la barbe, oui, bien sûr. En vacances comme les enfants. Ouais, c'est ça. Comme les pitis. Ça fait plus propre. Ah bah oui. Quand même, quand même. Non mais quand même. Pas déconner. Moi j'ai éval de spémat juste après. Oh. Oh là là, ça fait des études sérieuses là, dis donc, il y a des gens sérieux là. Rassurez-moi, il y a des gens qui font des sciences humaines quand même dans le chat, pour contrebalancer. Oh, les ingés là. Oh et oh. Chômeur aussi. Ah ouais, non, voilà, c'est bon. Sociologie ici. Voilà, sociologie, très bien. Des sciences mollasses. Des sciences mollasses. Genre le droit c'est drôle. Ah non c'est de la merde. Ah non, en fait pas ça. Chôme du spé stream. Chômage pour bien baisser de level. Je bosse en maison d'édition, ça compte? Ah ouais non, maison d'édition, c'est pas sérieux. On a besoin d'ingénieurs. Hein. Arrêtez avec vos conneries. On a besoin d'ingénieurs en intelligence artificielle. C'est le plus important. J'ai fait le ménage hier chez moi, ça compte comme du travail. C'est du travail gratuit, c'est du travail bénévole. Comme ça, les IA feront de la socio pour nous. Exactement. Les intelligences artificielles résoudront les problèmes de la sociologie. Suffit de demander à ChatGPT ce qu'il en pense. Il va sortir une analyse sociologique, puis voilà. Qu'est-ce qu'on s'emmerde à former des sociologues? C'est fou ça. Je bosse avec des ingénieurs en IA, ils sont trop pas humains. Oh, tout de suite, les grands mots. Il y a un petit cœur qui bat sous ce costume de d'algorithme. Au chômage, mais debout, au moins, j'ai fait l'effort. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ça progresse. Le retour à l'emploi, c'est pour tout de suite. Blague sexiste d'économiste. Si tu épouses ta femme de ménage, l'activité ne change pas, mais le PIB baisse. Non. Non. Non, les économistes, non. C'est vraiment une blague de merde. C'est vraiment pas ouf. Est-ce qu'il y a des blagues de juristes? Je crois pas. Il y a des blagues de jury. On n'est pas marrant, hein, les juristes. Je suis même pas sûr que ça existe, les blagues de juristes. De préférence pas sexiste. Ah ça, je peux pas garantir ça. Les juristes, ils ont pas le droit. Je l'ai, je l'ai, je l'ai. Il y a longtemps, il y avait la page bordel de droit sur Facebook. Ouais, je me souviens. Je me souviens. Non, mais t'as raison, il y en avait, ouais. Je crois qu'on rigole juste de notre vocabulaire. Quand tu places synallagmatique dans une conf, t'es content. Oui. Oui. J'avais dit que l'accord du NFP était un accord synallagmatique entre les quatre parties signataires. Et personne n'avait compris la ref. Synallagmatique, pour ceux qui n'ont pas le. C'est vraiment un mot de juriste, ça désigne le rapport égal et équitable entre les signataires d'une convention, d'un contrat. Quand vous signez un contrat de mariage, c'est un contrat synallagmatique. Les deux époux, juridiquement, sont à égalité dans la signature. Je le vulgarise. Si tu fais le ménage en tant que fonctionnaire dans une mairie, c'est de la dépense d'argent public. Si c'est en tant que sous-traitant, c'est une création de richesse. Et si c'est chez toi, c'est du travail dissimulé. Pas mal. J'aime bien. J'aime bien. Après, tu sors un irréfragable et c'est bon, t'es grillé juriste. Ah ouais, irréfragable, ça aussi, ça pique. Ouais. C'est quoi la différence avec un contrat bilatéral? Un contrat bilatéral, c'est un. Ça n'existe pas d'ailleurs juridiquement, c'est un contrat entre deux parties. Il peut être synallagmatique ou pas. Le contrat de travail n'est absolument pas synallagmatique. Non, le contrat de travail, je crois. Ah, c'est une bonne question ça. Ça crée des effets de droit pour les deux signataires, pour les deux parties au contrat. Je sais plus, je vous avoue. J'ai plus là la théorie générale des obligations en tête sur le caractère synallagmatique d'une convention. Si c'est dans les effets de droit qui sont créés, si c'est dans le statut des signataires, si c'est dans la raison qui pousse à signer. En droit, quand vous faites des études de droit, vous avez un cours en deuxième année qui s'appelle le cours du droit des obligations. Et le droit des obligations, c'est très spinozien, c'est une espèce de logique juridique appliquée au fait de signer des contrats, de contracter des prêts, de contracter tout court d'ailleurs, d'acheter des actions, des obligations, etc. Et donc vous avez en droit privé, vous avez tout un droit, toute une procédure, tout un ensemble de trucs. Par exemple, vous vous interrogez, parce que c'est le rôle des juristes, hein, vous vous interrogez sur, je me souviens d'un cours que j'avais eu sur le terme du contrat. À quel moment le contrat est considéré comme étant effectué par les deux parties? Quand vous achetez une baguette de pain à votre boulanger, vous vous mettez d'accord sur l'achat d'une baguette de pain. Donc là déjà, il y a une signature virtuelle, mais signature quand même, puisqu'il y a un accord entre les parties. Et ensuite, il vous tend la baguette, vous la prenez, puis vous tenez une pièce et vous la mettez dans sa main. Maintenant, la question est la suivante. À partir de quel moment et à partir de quelle étape est-ce que le contrat est conclu? Est-ce qu'il est conclu dès l'accord oral sur l'achat de la baguette? A priori, oui. Est-ce qu'il est conclu au moment de la remise de la marchandise? Ou est-ce qu'il est conclu au moment du prix versé dans la main du boulanger? Voilà. Bah, c'est ça le droit des obligations. Vous vous interrogez sur ce genre de truc. Alors là, ça peut vous paraître. Un peu virtuel, etc. Mais en droit des assurances, c'est quand même assez important ce genre de questions. Par exemple, une entreprise achète à une autre entreprise une cargaison, ils font le virement du paiement de la marchandise, puis l'autre entreprise envoie un camion avec le chargement en direction de l'entreprise acheteuse. Question, est-ce que le transfert de la propriété de la marchandise se fait au moment où la marchandise est payée? Est-ce que c'est au moment du chargement du camion? Est-ce que c'est au moment du déchargement du camion? Est-ce que c'est au milieu de la route? Ben voilà, ben c'est des questions, c'est assez important pour des raisons d'accident de la route, de si on perd la marchandise sur le chemin, etc. Qui est responsable? Quelle assurance doit couvrir le dommage? Il est conclu au moment de la réponse de la boulangère qui demande et avec ça? C'est ça. C'est le et avec ça qui conclut l'acte d'achat de la baguette de pain. Vraiment fun, ces juristes. Ah ouais, non, 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 ça, le droit des obligations, c'est pas ouf, hein. Niveau fun, c'est vraiment pas dingue. Baxit revient quand? La semaine prochaine. Jeudi prochain. Donc aujourd'hui, c'est les questions à Jean. Ouais, aujourd'hui, c'est les questions à Jean. FAQ politique. Si vous avez des questions sur le fonctionnement de la politique, bah, je serai ou sur son actualité d'ailleurs, je serai ravi d'y répondre. On débat publiciste contre privatiste. Ah, la grande question. Qui baise le plus? Les privatistes ou les publicistes? Réponse, aucun des deux. Il dit, non, je l'ai des jurés. Non, c'est vraiment pas fun, hein. C'est pas sexy. C'est quoi un dircab et il sert à quoi? Un dircab, c'est un directeur de cabinet. Il dirige un cabinet. Qu'est-ce que c'est qu'un cabinet? Un cabinet, c'est une équipe rapprochée d'agents qui travaillent pour le compte d'un décisionnaire, d'un responsable politique, en général chargé d'un exécutif quand même, un maire, un président de conseil régional, départemental, ça peut être un vice-président aussi de région, maire adjoint, ça peut arriver dans les très grandes villes, ministre évidemment, président de la République évidemment, ça existe aussi parfois dans les entreprises. Et un cabinet est donc composé de différents conseillers chargés de mission, chargés de projet, etc., des personnes qui accompagnent la personnalité politique dans l'exercice de son mandat. Donc ce sont des gens qui ne sont pas des fonctionnaires au sens soumis à un devoir de réserve et de neutralité dans leur action, pas du tout. Un cabinet, c'est politique, c'est une équipe rapprochée de politiques, de gens qui sont là pour aller dans le sens que souhaite le patron. Et le directeur de cabinet, c'est la personne chargée de la direction et de l'animation du travail de toute cette équipe, en lien direct avec le boss, le politique. Le directeur de cabinet est souvent considéré, et c'est assez juste, hein, comme l'alter ego du politique. Quand vous parlez à un dircab, c'est comme si vous parliez au patron, c'est pareil. C'est le même niveau. C'est son cerveau gauche, quoi. Il n'y a pas l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette entre les deux. Est-ce qu'on a des nouvelles sur la baisse du seuil de la franchise de TVA pour les micro-entreprises? Aux dernières nouvelles, le gouvernement a l'intention de ne pas appliquer la baisse qui était prévue au budget. Donc ça ne va a priori rien changer pour les auto-entrepreneurs. Les dircabs sont souvent des hauts fonctionnaires. Ça dépend dans quel... Dans quelle collectivité, etc., on se trouve, mais oui, en général, un dircab, c'est quelqu'un qui a une immense compétence et connaissance du milieu et de l'environnement immédiat du truc, quoi. Le directeur de cabinet du ministre de la Santé connaît extrêmement bien le ministère de la Santé, par cœur. Il le connaît, t'inquiète. En général, il y a bossé pendant des années, il a bossé à l'inspection générale, il a bossé au secrétaire général, t'inquiète, il connaît. Donc oui, souvent on y retrouve des profils de type haut fonctionnaire, mais pas toujours. Ça peut être des politiques, ça peut être des gens venus d'ailleurs. Que deviennent-ils si l'élu change? Est-ce qu'il reste avec le nouveau? Non, il ne reste pas avec le nouveau. Le principe d'un cabinet, comme je vous le disais tout à l'heure, sur le caractère politique de cette équipe, c'est que les collaborateurs et les collaboratrices d'un politique sont attachés à ce politique, à cette personne, à son idée, à son ambition, à ce que vous voulez. Dès lors, s'il y a un changement, le cabinet a tout naturellement vocation à être entièrement remplacé. C'est tout à fait normal et naturel, et tout à fait accepté. Que bon bah si ça change, ça change et ciao bye bye quoi. Après, le nouveau politique qui est nommé au poste peut décider, s'il le souhaite, de garder une partie du cabinet de son prédécesseur. Ça peut arriver, notamment des conseillers qui bossent sur des sujets très spécifiques, dans lesquels il n'a pas l'intention de faire des changements radicaux, etc. Ça peut être intéressant de garder une continuité. Mais quand il y a une alternance politique, par exemple, tous les cabinets dégagent. Ce qui est d'ailleurs logique. Enfin, moi, j'ai bossé en mairie quand il y a eu les élections municipales. tout le cabinet à travailler pour le bilan de la mère pour qui on bossait. Donc on a tout, ça fait des années qu'on taffe pour que le bilan soit bon, pour que les électeurs soient contents, etc. Machin. Si on perd l'élection, et c'est vraiment le « on perd l'élection », le cabinet compris, eh ben il est hors de question qu'on bosse pour les mecs d'en face. Certainement pas. Je vais pas aller travailler pour le mec qui vient de gagner l'élection, qui a fait campagne contre moi, contre notre travail collectif et tout. Non, mais ciao, bye bye. Hein. Pas grave. Qui paye le cabinet ? Le cabinet est payé sur des fonds publics afférés au fonctionnement habituel de l'institution. Donc il y a une enveloppe, qui est affrétée pour le cabinet du ministre, le cabinet du maire, le cabinet du machin. Ce sont également généralement des emplois dits fonctionnels et qui sont plus là pour la mise en œuvre administrative, financière et juridique du projet politique. Ouais, c'est ça. Exactement. Le secrétaire général de l'Élysée, c'est basiquement un dircab plus plus. Ouais. Oui, c'est un peu compliqué le secrétaire général de l'Élysée, parce que l'Élysée, c'est la présidence de la République, qui est une institution très particulière de la Ve République, qui a son fonctionnement propre. Le président de la République a un cabinet, mais il a aussi un secrétariat général. Le secrétariat général, ça existe aussi dans les ministères d'ailleurs, c'est le top niveau administratif de la hiérarchie de l'ensemble de la maison. Le secrétaire général de l'Élysée fait fonctionner la maison Élysée, donc la présidence de la République, d'un point de vue fonctionnel. Donc voilà. Sauf que tu bosses pas pour les mecs d'en face, en particulier en mairie, mais plutôt pour la population, non? Bah oui, mais non, toute la politique est là. Ça veut dire quoi bosser pour la population? Ça veut dire quoi bosser pour la population? Moi, j'ai ma manière à moi de voir les choses. Je bosse pour un élu qui a été élu sur un programme politique, qui a donc une vision, un angle, un cap, appelez ça comme vous voulez, qui voit les choses d'une certaine manière. Et le camp d'en face, que j'appelle le camp d'en face, ce sont des personnes, et c'est tout à fait respectable, qui ont une vision très différente de la mienne de ce que c'est que l'intérêt de la population. Bon, bah, s'ils gagnent les élections, je vais pas bosser pour eux. J'ai pas envie de bosser pour eux. Je suis pas du tout d'accord avec leur manière de voir les choses. C'est quoi la différence entre un DIRCAB et un DGS ? Justement, le directeur de cabinet s'occupe vraiment de l'animation de l'équipe politique, qui fait de la politique. Le directeur général des services, c'est le plus haut des fonctionnaires de l'ensemble administratif qu'est la mairie. Donc un directeur général des services va diriger les services de la mairie, mais d'un point de vue hiérarchique administratif. En lien évidemment avec le maire, qui va donner des consignes, qui va recevoir des conseils aussi du côté du DGS. Si le maire dit « j'aimerais bien qu'on déneige toutes les routes de la ville en une demi-journée », c'est le rôle du DGS que de dire « Monsieur le maire, excusez-moi, mais nous n'avons qu'une seule déneigeuse, elle est en panne. » Voilà, échange interne, discussion, réadaptation de l'ambition. Donc en fait, personne n'essaie réellement de travailler ensemble, c'est de façon permanente, éternelle et gravée dans le marbre, les camps les uns contre les autres. Ben non, parce qu'il y a des gens qui adhèrent à des camps ou pas. Il y a des gens qui ont collaboré avec les nazis. Hein. Voilà, il y a des gens qui ont adhéré au projet, hein, qui ont fait « Oh non, mais vas-y, moi je soutiens, oh, ouais. Ah ouais, je vais vous aider, hein. Vas-y, let's go. Hein. » Bon, il y en a qui ont résisté aussi. Mais bon. Mais la politique, enfin, j'en reviens encore à ça, la politique, ce n'est pas la résolution des conflits. C'est l'organisation des conflits. C'est pas exactement la même chose. Le dissensus fait partie de la politique, et c'est très bien qu'il y ait du dissensus. C'est pas grave, hein. Un maire qui perd une élection, il perd une élection. D'un certain point de vue, d'ailleurs, ce serait même très antidémocratique qu'une équipe qui a perdu une élection reste en poste. Bah, vous avez perdu. Enfin, la population a choisi, hein. Elle a rejeté votre bilan, elle a rejeté votre action, elle en souhaite une autre. D'autres personnes vont la mettre en place. Et voilà, bah, le cabinet, ça dégage. Merci pour votre travail, mais au revoir. Pourquoi penses-tu que cette conception de la politique comme résolution des conflits est si peu répandue, comprise par certains? Non, non, mais c'est normal. Enfin, c'est pas. Déjà, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, d'une part, dans ma manière de voir les choses et de vous les présenter. Et d'autre part, c'est aussi une vision très négative du monde politique. Vous le savez, hein, comme on le sait tous, la politique est très très peu appréciée et aimée des Français. Les partis politiques, les élus, notamment au niveau national, ont une très 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 mauvaise cote de popularité dans la population, les gens n'aiment pas, et ils considèrent notamment qu'effectivement ce sont des bisbilles pour partis artificiels qui sont inventés par des gens qui cherchent des postes et qui ne pensent qu'à leur avenir politique personnel pour gagner des élections et avoir plus de pouvoir, etc. C'est une vision très contestataire, anti-parlementaire, de toute façon tous ces gens-là, ils font semblant de pas s'aimer, mais en réalité, machin. Donc voilà. Et puis, tu as aussi cette idée, qui pour le coup est une idée à laquelle je ne souscris absolument pas, qui est que l'intérêt général existe. Au sens de, objectivement, l'intérêt général existe. Il y a un et un seul intérêt général. Il s'agit de le découvrir. Il s'agit de faire de l'archéologie, de travailler à le découvrir et à le servir. Moi, je considère que justement, la politique en démocratie, ça consiste à s'interroger, à questionner et à contester parfois la notion d'intérêt général et la manière qu'ont les autres de la servir, cette vision. On peut ne pas du tout adhérer à la manière qu'a de voir l'intérêt général, le président de la République, le gouvernement, les partis politiques, etc., machin. Il me semble qu'il n'y a pas à arbitrer entre la justice et l'intérieur. Dit comme ça, ouais. Non, non, dit comme ça, c'est une très jolie phrase. Mais en fait, encore une fois, je suis désolé, on va rentrer dans le détail. C'est quoi la justice? C'est quoi le ministère de l'Intérieur? Quelles sont les missions qui sont celles du ministère de l'Intérieur? Quelles sont les missions qui doivent être celles du ministère de l'Intérieur? Quelles sont les missions du ministère de la Justice? Qu'est-ce que doit faire la justice? Qu'est-ce qu'elle ne doit pas faire? Quelles sont les responsabilités des uns des autres? Et quelle politique publique tu veux mener? Quelle politique publique de police, quelle politique publique de justice pénale, voilà. Et il peut arriver qu'il y ait des tensions entre les ministères, et c'est tout à fait normal. Les intérêts de la police ne sont pas tout à fait les intérêts de la justice. Je dis pas qu'il y en a un qui est supérieur à l'autre. Je dis qu'il faut faire fonctionner tout le monde ensemble de manière à ce que ça colle de manière cohérente dans un angle politique choisi et déterminé. Si tu mets le RN à l'intérieur et un NPA à la justice, le Premier ministre arbitre comment? Ah oui, c'était ça la phrase, d'accord, ok. Le malheur des uns fait toujours le bonheur des autres. Où est l'intérêt général quand on doit tout le temps arbitrer entre des intérêts contradictoires? Bienvenue en démocratie. Bienvenue en démocratie, effectivement. Comment on arbitre? Quel choix on fait? Est-ce qu'on fait des compromis? Est-ce qu'on provoque des ruptures? Est-ce qu'on assume, est-ce qu'on accepte de, effectivement, ne pas aller dans le sens de l'intérêt de quelques-uns au motif que, selon la manière qu'on a de voir les choses, ça va bénéficier à beaucoup plus de gens? Mais c'est une très bonne question. Je ne sais pas. Tribunal administratif qui vient d'annuler l'autorisation du projet A69, faute d'intérêt public majeur. Oui, je sais, j'ai vu. J'ai vu. Alors ça, c'est un truc que, c'est, encore une fois, c'est une mécanique qu'on n'a pas forcément en tête, surtout quand on est assez étranger au monde de la politique, etc. Mais je vous rappelle hein, que l'État, l'administration, les administrations, les collectivités locales, la sécurité sociale, etc., ne font pas ce qu'ils veulent. On est dans un État de droit, et ce que veut dire un État de droit, par exemple, c'est le fait que les décisions prises par l'État peuvent être soumises à un juge. Vous avez le droit, vous, de saisir un juge pour contester une décision administrative. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Ça ne va pas dans mon intérêt, machin. Mon permis de construire a été rejeté. Je suis pas d'accord avec cette décision. Je vais saisir un juge administratif pour lui dire la loi a été violée selon moi. Le maire n'avait pas à prendre cette décision. Nanana, nanana, etc. Et la justice tranche. Et il arrive que la justice, il arrive assez souvent même, que la justice condamne l'État. Et là, en l'occurrence, ce qui vient de se passer, c'est exactement ça. Le préfet avait pris une décision administrative autorisant le début des travaux d'une nouvelle autoroute. Bon, et ben il y a des opposants au projet de l'autoroute qui ont saisi la justice en disant ben nous, on n'est pas d'accord avec cette autorisation de débuter les travaux. Voici nos arguments. Le préfet a été défendu avec des arguments en disant non, non, mais nous, on pense que si. Et la justice a tranché en disant effectivement, cet arrêté du préfet n'aurait pas dû être pris. Ça viole la loi. Ben voilà. Alors peut-être qu'ils vont faire appel et tout, j'en sais rien, on verra. Il y aura peut-être un appel, oui, bien sûr, heureusement. L'État a le droit de faire appel, comme tout le monde, c'est très bien. Qui tranche en cas d'appel? Ben, la cour d'appel. C'est même pour ça qu'on l'appelle comme ça. La cour d'appel, comme vous le savez, hein, quand on est condamné en première instance, on peut interjeter appel, obtenir un deuxième jugement qui peut confirmer le premier ou l'infirmer ou le modifier. Et ensuite, en troisième instance, cour de cassation. Sauf que là, en l'occurrence, non, puisque ce n'est pas la cour de cassation qui tranche, c'est le Conseil d'État. Le Conseil d'État, c'est la Cour suprême de l'ordre administratif. Il y a deux ordres juridiques en France, l'ordre juridique judiciaire, les crimes, les délits, droit de la famille, machin, etc., tout ça, et l'ordre judiciaire administratif. Voilà, donc il y a deux cours suprêmes en France, le Conseil d'État et la Cour de cassation. Elle doit être livrée en fin d'année. On fait quoi si l'autoroute est construite ou majoritairement construite? Ça, je ne sais pas de quoi le jugement rendu par la cour d'appel, par le tribunal administratif, pardon. Je n'ai pas le détail du jugement. Je ne sais pas ce qui a été décidé sur des mesures compensatoires qui pourraient être décidées, sur des versements d'argent, sur des paiements d'amende, sur des. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Si une autoroute déjà construite est jugée illégale après coup. Je ne sais pas ce qui est, je sais pas si la destruction de l'autoroute construite fait partie des décisions qui peuvent être prises. J'en doute fort. Est-ce que le peuple ressortira un jour les fourches et les faux pour monter à l'Élysée? Bah, ils l'ont déjà fait, hein. 2018, décembre 2018, les Gilets jaunes. Ils ont obtenu 17 milliards d'euros. Puis après, ça s'est arrêté. N'y a pas un problème de séparation des pouvoirs que le Conseil d'État soit l'instance suprême qui peut être amené à juger des arrêts qu'il a aidé un ministre à produire. Si, 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 si. Si, si, ça, c'est une critique assez classique, effectivement, du Conseil d'État. Sur cette idée que il faut séparer le il faut séparer il faudrait dans l'idée séparer en deux la fonction de conseil et la fonction de jugement du Conseil d'État. C'est des débats très techniques et de haute volée entre juristes publicistes de haut niveau qui se posent ces questions-là, effectivement. Il me semble que c'est à ça que servent les référés suspension. Absolument. Alors un référé, si vous ne savez pas ce que c'est, un référé, c'est un jugement d'urgence. Parce que quand vous saisissez la justice, il y a un délai, parfois assez long, il faut le reconnaître, avant qu'une décision soit rendue par la justice. Sauf qu'il y a des cas, et ça peut vous arriver à vous demain, dans lesquels vous avez besoin d'une action très rapide, notamment pour mettre fin à un truc que vous estimez, je sais pas quoi, dommageable pour vous, etc. Et donc, un juge, y compris un tribunal administratif, peut être amené à juger en référé, pas forcément juger sur le fond de l'affaire, mais juger au moins sur des actes de préservation immédiate, en disant j'ordonne la fin du chantier tout de suite. Il a à peine commencé, j'ordonne la fin du chantier, on arrête. Et on laisse le temps à la justice de travailler sur le fond de est-ce que c'est légal ou pas. Effectivement, ça existe. Là, semble-t-il, ça n'a pas existé. Peut-être qu'il y a eu des référés qui ont été rejetés, d'ailleurs, par le passé. Donc voilà, là en l'occurrence, dans cette affaire-là précisément, je sais pas, j'ai pas lu le jugement, je connais pas les arriérés de décisions qui ont été prises préalablement. Hier, la pétition sur la TVA des auto-entrepreneurs a passé le seuil de 100 000 signatures. Que se passe-t-il quand une pétition pour le Sénat ou l'Assemblée est validée? Alors ça dépend. Je sais qu'au Sénat, il y a un site de pétition en ligne sur le site internet du Sénat, et les pétitions qui obtiennent le plus de signatures doivent obtenir une réponse de la part du Sénat. Et je crois que c'est la commission compétente sur le fond du Sénat qui doit répondre à la pétition. Ça peut être une saisine, par exemple. Ça peut être vous avez attiré notre attention sur un problème, nous allons travailler sur le sujet. Nous, commission du Sénat, allons ouvrir des travaux sur le sujet et prendre des décisions, etc. Quand un budget est adopté, il l'est forcément pour un an ou il peut être annulé et revu à un moment. Il peut tout à fait être revu. Alors annulé, quand même très peu de chance, mais un budget, effectivement, il y a un principe en France qui s'appelle l'annualité budgétaire. Tous les ans, on doit faire un budget. C'est un principe qui s'applique à beaucoup d'entreprises, à beaucoup de particuliers. Enfin, vous faites un budget annuel, vous devez établir un budget prévisionnel, vous devez tenir vos comptes de manière annuelle, vous devez signer les comptes de votre entreprise ou de votre association ou de votre syndicat ou n'importe quoi tous les ans. Et tous ces principes de l'annualité budgétaire sur laquelle tout le monde travaille, tout le monde s'aligne. Et l'État ne fait pas exception. L'État a un budget annuel qui court du 1er janvier au 31 décembre. Normalement. C'est pas toujours le cas, mais normalement. Une fois qu'un budget est adopté, donc une loi de finances est adoptée, elle peut être modifiée en cours d'exercice. Ça, c'est possible. On n'est pas prisonnier d'une loi de finances qui a été votée en décembre dernier. Si les choses changent pendant l'année, ce qui peut arriver, le taux de croissance qui s'effondre, ou à l'inverse, un taux de croissance qui monte, machin et tout, bon, bref, changement des paramètres macroéconomiques. Un gouvernement peut être amené à présenter un budget qu'on appelle rectificatif. Donc c'est une modification du budget en cours d'année. On donne des coups de barre à droite, à gauche, peu importe. Voilà. Ça s'appelle les budgets rectificatifs et c'est tout à fait faisable. Par exemple, très bon exemple que je donne à chaque fois, quand un président de la République est élu, dans le cadre d'une alternance, par exemple, regardez, Jacques Chirac est Premier ministre depuis 1986, il a une majorité de droite, RPR, qui vote ses budgets, bon, très bien. Et en 1988, il y a une présidentielle. Mitterrand est réélu président de la République en mai, il dissout l'Assemblée nationale, et en juin, on fait une élection législative, et c'est les socialistes qui sont majoritaires. Bon, bah, on est en juin, on est début juillet, mettons. Les socialistes viennent d'être élus. Clairement, il y a un changement de cap là, il y a une volonté politique, démocratique, les gens ont décidé un changement de cap politique, etc. Bah, on ne peut pas dire, ah oh, bah non, c'est dommage, on est obligé de continuer à exécuter le budget de Chirac. Bah oui, il a été voté en décembre dernier. Oh bah merde. Bon bah jusqu'à décembre, on continue à mener une politique de droite. Bah non, tu fais pas ça. Ce que tu fais, quand t'es élu président de la République et que t'as une majorité, tu fais un budget rectificatif pendant l'été. Premier truc que tu fais. Et dès ce budget, tu prends les premières décisions importantes en matière économique pour changer de cap économique. Voilà. Autre situation, bah tiens, je vous parlais tout à l'heure des paramètres qui changent et qui font que c'est un peu compliqué. On doit changer le budget en cours d'année. Bah, rappelez-vous 2020, hein. 2020, le Covid. Décembre 2019, l'Assemblée nationale vote un budget. Début janvier, le Covid devient un sujet majeur dans les JT. Février, confinement. Février-mars, confinement. C'est allé vite, hein. En très peu de temps, le visage du monde entier a changé. Et là, on s'est retrouvé dans l'urgence à devoir prendre des décisions rapides pour débloquer des budgets très vite, pour acheter des masques, pour les hôpitaux, pour... Enfin, bref. Ben moi, je me souviens qu'en 2020, il y a eu deux budgets rectificatifs, deux ou trois budgets rectificatifs la même année. Voilà. Très bon exemple. Quatre, il me semble. Ah ouais, quatre, c'est possible, hein, c'est possible. Ouais, parce qu'après, il y a eu le plan de relance et tout, donc il a fallu débloquer des budgets très rapidement. Ouais, t'as raison, c'est peut-être ça. Je me souviens plus, mais enfin bref, c'était assez impressionnant. Hein. Bah, très bon exemple. On est catastrophe en plein milieu de l'année. Quelles ressources tu conseillerais pour se former sur la politique à quelqu'un qui veut commencer à s'investir mais qui n'a pas de background politique? Faut lire les journaux. Vraiment, hein, je pense qu'il n'y a pas de meilleure formation que l'actualité politique. Faut lire les journaux. Faut lire les analyses proposées par les journaux, lire les interviews. Il faut. C'est à mon avis le mieux. Ça viendra avec le temps. Mais il n'y a pas un livre qui s'appelle La politique pour les nuls, dans lequel il y a tout écrit dedans. Bah non, non, c'est bon. Regardez le live de Jean. Ah bah si je peux t'aider, c'est avec plaisir, hein. Je suis là pour ça. Des conseils sur quels journaux à lire? Bah non, enfin il y a ce qu'on appelle les journaux de référence quand même, les grands quotidiens nationaux par exemple, c'est un bon début. Enfin, ils sont connus quand même pour exister. Donc voilà, moi à titre personnel, je lis à peu près tous les jours Le Monde, Le Figaro, Libération, de base. C'est à peu près la base. Après, il y a évidemment la télévision et la radio, hein, je veux pas. Télévision et la radio, évidemment, fournissent quand même beaucoup de travail là-dessus. Il y a des interviews, il y a des émissions, il y a des talks, il y a plein de trucs. La base, Le Monde, Le Figaro, Libé. Ouais, c'est ça, Le Monde, Le Figaro, Libé, quoi. C'est vraiment, genre, moi, c'est mon réflexe du matin, avec les yeux qui piquent, là. Hop, Le Monde, Libération, machin. Après, il y a Mediapart, qui fait un travail aussi de suivi de l'actualité. Il y a évidemment l'UMA. Après, pour des articles un peu plus profonds, avec une temporalité différente, t'as les hebdomadaires. Le Nouvel Obs, Le Point. Bon, alors, Le Point, une question de goût, après. Hein. C'est vous qui voyez. Il y a Marianne, il y a plein de trucs. Et pour comprendre le fonctionnement des institutions, bah, soit tu t'inscris à la fac en cours de droit public, soit tu regardes des vidéos sur YouTube, soit tu suis l'actualité. Hein. L'actualité te guide petit à petit à travers le marasme des institutions. Franchement, si tu es assidu dans ta lecture des journaux, au bout d'un an, tu commences à avoir une bonne compréhension, une bonne lecture de qu'est-ce que c'est que l'Assemblée nationale, le Sénat, les groupes politiques, les commissions, la justice à peu près, l'Élysée, le gouvernement, les ministères, bon. Wikipédia, c'est une bonne base aussi. Ah, après, tu as toujours Wikipédia. Oui. Alors ça, après, vous faites ce que vous voulez, mais moi, ma routine à moi, quand je lis les journaux et tout, c'est que j'ai toujours un onglet Wikipédia ouvert sur le côté, hein, pour checker des trucs et tout, en mode, vas-y, attends, 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 pourquoi il dit ça, lui? Chaque fois qu'il y a un truc qui me surprend dans un article, hop, ça part sur Wikipédia. Et je vais me renseigner, quoi. Le but, c'est d'avoir plusieurs avis, droite, très droite, gauche, très gauche. Oui, après, ça c'est aussi, vous faites ce que vous voulez, hein. Vous avez le droit de ne souhaiter lire que des trucs avec lesquels vous êtes d'accord. Moi, c'est pas ma manière de fonctionner, mais... Si même toi, tu as besoin de Wikipédia, c'est que les journaux sont pas très accessibles pour les non-initiés. Non, j'ai pas besoin de Wikipédia pour chercher des définitions des mots que je lis. Je comprends très bien les articles que je suis en train de lire. Hein. Quand je dis que j'ai besoin de Wikipédia, c'est juste que moi, je me pose des questions qui ne sont pas du tout des questions posées par l'article et auxquelles l'article a vocation à répondre. Quand je lis un article sur un homme politique qui rappelle que, il a été ministre dans les années 80, bon, bah normalement, toi, tu lis ça, tu t'en fous. Enfin, tu vois, t'avances dans ton article. Moi, je suis du genre à faire, ah ouais? Attends, mais c'était en quel gouvernement déjà? Enfin, voilà. Après, c'est parce que je suis un alien, moi. Je suis un mec très bizarre. Hein. Je suis pas en train de vous dire, il faut que vous alliez toutes checker sur Wikipédia tout le temps. Moi, je suis du genre à me dire ce genre de truc, tu vois. Perso, je vois pas pourquoi je donnerais du pognon au Figaro. Ah bah, n'en donne pas, hein. Surtout pas. Je suis pareil, j'ai 5000 onglets ouverts. Ah ouais, non, mais après, quand ça part. Non, non, mais attends. Moi, quand je commence à cliquer sur des liens sur Wikipédia, tu me retrouves à 2 h du matin en train de lire la fiche Wikipédia de Ivan le Terrible, premier tsar de Russie. Et à un moment, je me dis, bon. Peut-être falloir que j'aille dormir quand même. Hein. Tout ça est très intéressant, hein, mais... Est-ce que tu retiens ce que tu lis? Ça dépend. Non mais moi je suis comme enfin je suis comme beaucoup de gens, hein, j'ai une mémoire un peu fucked up, hein, je retiens des détails absurdes que je sais depuis 20 ans, je sais pas pourquoi je m'en souviens. Puis il y a des trucs un peu évidents, je sais plus que Il s'appelle comment déjà mes neveux et nièces? Ah oui c'est vrai, oui c'est ça. J'ai oublié. Ils ont quel âge? Premier, il est né à la fin du quinquennat Hollande. Le deuxième, c'était au premier 49-3. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà, ça c'est moi. Ça c'est comme ça que je. Les points de repère sûrs. Mais tu sais que je suis. Putain. Je suis vraiment un alien. Hein, parce que moi, mes repères chronologiques dans le temps, c'est l'actualité politique. C'est comme ça. Je suis désolé, je... Voilà, j'ai le crâne rempli de ça, machin. Et vraiment, je me souviens, c'est... Je sais que ma grande sœur, elle est née pendant les privatisations en 87. Je sais que ma petite sœur, elle est née au traité de Maastricht en 92. Tu vois, c'est vraiment... Et pour mes neveux et nièces, c'est pareil. Un jour, j'ai dit ça devant ma sœur. Elle m'a regardé, elle m'a dit, mais t'es taré! Et ouais. Ouais, je crois, ouais. Non, en vrai, c'est vrai que c'est chelou. Pour m'en souvenir, j'ai besoin d'ancrer les dates dans une timeline que moi, je connais. Mais c'est comme... c'est en même temps, mais moi, je suis matrixé, mais ça, c'est parce que je suis fou. Mais y a des gens qui font exactement comme moi, mais avec le Tour de France. Il y a des gens, ils sont passionnés de cyclisme, ils adorent le Tour de France et son histoire. Bon, bah eux, leur repère chronologique dans leur tête, c'est les victoires du Tour de France chaque année. Ils connaissent, machin, le maillot jaune, etc. Bon, bah voilà, c'est. Les cinéphiles, c'est les années de sortie des films. Les années de sortie des films, exactement. Non, mais ça peut être ça aussi. Un cinéphile passionné qui adore l'histoire et tout, bah ouais, leurs repères temporels vont être liés au monde du cinéma. Et ça peut être le jeu vidéo, et ça peut être plein de trucs, peut être l'économie. Moi, je connais des gens qui ont passé leur vie à travailler dans les domaines économiques, dans des grandes entreprises, etc. Leurs repères temporels, enfin, c'est pas forcément des repères temporels, mais ils se souviennent, sur les 30-40 dernières années, des tendances, des cours de bourse de leur entreprise. Les bonnes années, les mauvaises années, les croissances, les récessions, les plans sociaux, les investissements, les machins, bah c'est un repère temporel. Hein. Oui, ça, je me souviens très bien, j'étais là, cette année-là, c'était l'enfer. L'année suivante, par contre, on a cartonné parce que tac, tac, tac. Bon, bah voilà. Si je te dis que j'ai passé mon bac au début du gouvernement Jospin, tu sais quelle année c'était du coup? 97, 1997, Jospin, enfin. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Le 11 septembre, c'est l'année où Schumacher a gagné la F1. La guerre en Ukraine, je me souviens, c'est quand le kernel Linux 5.17 était allé sortir. On peut faire sur les versions de Minecraft aussi. Je me souviens très bien, ça c'était la bêta 1.8. Je me souviens très bien. Est-ce que tu estimes que Macron s'est fait avoir sur la rencontre avec Trump? Non! Bah non. Non, non, c'est ce que je disais il y a 2 jours sur ce sujet. Je pense que Macron, enfin, c'était une mission impossible. Il fallait le faire. Il était hors de question de ne pas le faire. Donc il fallait aller voir Trump pour lui dire qu'il faut pas lâcher l'Europe ni l'Ukraine. Mais faut pas, mais il faut être lucide sur le fait que, semble-t-il, Donald Trump a décidé de discuter qu'avec Poutine à partir de maintenant, quoi, et que l'intérêt de l'Europe, c'est plus le sien. Voilà. Donc non, 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 je pense pas que Macron s'est fait avoir, s'est fait berner, s'est bercé d'illusions, etc. Je pense pas. Hein. C'est de la diplomatie pure et dure. On parle au chef d'État, lucide. On se fait pas de fausses promesses, on n'imagine pas des plans sur la comète. Voilà. Est-ce qu'on ne se dirige pas vers un nouveau bloc USA-Russie? C'est dur à dire parce que la Russie n'est pas vraiment un géant hein, en termes économiques, en termes militaires. Sur la bombe nucléaire, certes, mais bombe nucléaire mise de côté, pas tout à fait comparable avec la puissance des États-Unis, de la Chine. La Russie est tiraillée entre la Chine et les USA. Et les USA se feront pas la paix avec la Chine. Ouais, c'est ça, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Non, 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 je suis d'accord avec toi. De toute évidence, le monde dans lequel vous et moi, on a appris à grandir avec une superpuissance américaine, avec une puissance chinoise montante, etc., est un monde qui est en train d'être bouleversé. De toute évidence. Le fait même que l'Europe s'interroge objectivement sur son alliance avec les États-Unis d'Amérique, c'est un bouleversement majeur pour notre espace de pensée, pour notre manière de voir les choses, etc. Bon. Mais c'est pas parce que. Enfin, on sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. On est dans un monde multipolaire. Alors, pardon pour la banalité de ce que je viens de dire. Tout le monde le dit, tout le monde le dit tout le temps, etc. C'est un monde de plus en plus illisible, plus complexe, avec des puissances montantes, avec des puissances moyennes qui augmentent fortement, avec des dossiers brûlants, le dossier au Moyen-Orient, le nucléaire iranien. Enfin, bon. Donc, Quand tu dis ça, on croirait à une rupture, mais quand le mandat de Trump sera fini, la politique des US redeviendra comme avant. Alors, d'une part, pas forcément. Tu peux toujours compter sur la défaite du président en place pour espérer qu'éventuellement les choses reviennent dans l'ordre, en tout cas dans tes intérêts, au coup d'après, d'une part, et d'autre part, bon, bah, d'ici là, peut y avoir des dégâts quand même. On ne peut pas faire le dos rond et attendre que Trump se prennent à nouveau une tôle aux élections. Et la guerre en Ukraine, c'est maintenant, c'est tout de suite, c'est immédiat, là, c'est... Les barrières douanières, c'est maintenant. C'est loin d'être dit que Trump perde dans 4 ans. En plus. Non, mais on peut pas. Enfin, bon, on peut pas jouer à la roulette russe, hein. Moi, je me souviens de l'époque. Je me souviens de l'époque où toute l'Europe attendait la défaite du trio de droite des Européens, Sarkozy, Berlusconi, Merkel. L'Europe sociale, le coup de barre à gauche, tout ça. Tout le monde en parlait. Bon, bah Sarkozy, il a perdu, Berlusconi, il a perdu, et Merkel, elle a été réélue. Ah, t'es. Raté. Il peut y avoir 3 mandats par personne aux États-Unis. Non, de mémoire, aux États-Unis, le nombre de mandats présidentiels est limité à 2. Pas successifs en plus. C'est 2 au total. Mais c'est pas grave, hein. C'est pas grave dans le sens où Trump peut tout à fait mettre quelqu'un d'autre que lui après qui remporte les élections et on continue sur la même ligne, hein. C'est possible, voire même pire. Enfin, tu vois, je sais pas moi. Trump ne prend-il pas un gros risque d'inflation dans son pays avec toutes les décisions d'imposer des taxes? Si, bien sûr. Ah bah, le protectionnisme économique, ça peut avoir des répercussions assez vénères. Donc on verra ce que ça donnera effectivement sur le pouvoir d'achat des Américains. Je sais pas si vous avez vu, mais en ce moment, il y a une trend aux États-Unis sur les réseaux sociaux. C'est les gens qui sont au supermarché, ils prennent en photo les boîtes d'œufs, les boîtes d'œufs, avec le prix. Et ils postent ça sans commentaire sur Twitter, sur Insta, etc. Et pourquoi ils font ça? Parce que Donald Trump, dans sa campagne présidentielle, avait pris l'exemple du prix des œufs en disant que c'est le premier truc qu'il fera baisser. Il fera baisser le prix des œufs et il avait promis, il avait littéralement juré qu'il le ferait, qu'il promettait, machin, etc. Bon. Bah, les Américains, c'est une manière qu'ont notamment les démocrates de répondre à Trump en disant, bah regarde, voilà. On en est à ouais, 10 $ les 10 œufs. On en est là. Y a un problème de grippe aviaire aussi, donc ça aide pas. Ah bah forcément, non, bah voilà. Ah bon, bah c'est. Non, mais tu vois, je veux bien. C'est l'excuse de l'accident. Oups, désolé, on savait pas. Mais c'est pas faux, hein. D'ailleurs, c'est pas un mauvais argument. Regardez, le premier quinquennat de Macron a été marqué par le Covid. Covid, bon, bah du coup, les dépenses publiques ont dérapé, le taux d'endettement a augmenté. Bon, bah oui, oui, en même temps, il y a eu le Covid, quoi. Désolé, hein, mais on pouvait pas prévoir. Bah oui, non, effectivement, on peut pas prévoir. C'est pour ça qu'il faut y aller mollo sur les promesses, hein. Je vous le dis, hein, s'il y en a un parmi vous qui veut se présenter à la présidentielle, levez le pied un peu sur les promesses parce que on verra. On verra. On va faire le maximum. On va travailler pour. On va aller dans la direction de. Est-ce qu'il y a des programmes raisonnables qui ont été élus? Je sais pas qui est le juge du caractère raisonnable d'un programme, mais Macron, Hollande, Sarkozy, c'était pas déraisonnable hein, comme programme. Tu vois, c'était... C'est prévu pour quand les prochaines QAG? Ouais, je sais, vous êtes en manque, comme moi. Les prochaines QAG sont programmées pour mardi prochain, rassurez-vous. Retour à la normale, mardi prochain. Backseat ce soir, non. Non, pas backseat ce soir, backseat la semaine prochaine. Attal au second tour. C'est une vraie énigme, hein. C'est une vraie énigme intéressante. Qui va être candidat à l'élection présidentielle de 2027 parmi la famille macroniste? Il semblerait que les Républicains soient partis dans une idée d'avoir une candidature autonome. De toute façon, ils ne font pas partie des macronistes, hein. Ils sont alliés de circonstances, mais ils ne sont pas. Voilà. Donc les Républicains, ils vont présenter un candidat, on ne sait pas encore qui. Retailleau, Wauquiez, primaire, on verra. Les macronistes, de leur côté, est-ce que Macron va désigner un dauphin? Est-ce qu'ils vont organiser une primaire? On sait qu'Édouard Philippe est d'ores et déjà candidat. Ensuite, on se doute que dans les starting blocks, il y a Gabriel Attal, Gérald Darmanin. Est-ce qu'ils vont se déchirer? Est-ce que ça va être violent? Lisnard, on y croit à droite. David Lisnard est candidat à une primaire qu'il réclame de ses voeux à droite. On verra. Les médias disent que Retailleau a la cote, est-ce que c'est vrai? Oui, Retailleau a pris une énorme visibilité depuis septembre dernier en tant que ministre de l'Intérieur dans les gouvernements de Michel Barnier et de François Bayrou. Bruno Retailleau est candidat à la présidence du Parti Les Républicains contre Laurent Wauquiez. Oui, Retailleau, il a le vent dans les voiles, là, c'est clairement. À droite, il a le vent dans les voiles. Est-ce que le NFP va selon toi proposer un candidat commun? Non. Non, le NFP ne va pas présenter un candidat commun. Parce que tous les partis du NFP, je vous rappelle qu'il y en a quatre, n'ont pas la même ambition ni la même stratégie vis-à-vis de l'élection présidentielle. Vis-à-vis des législatives, ça leur arrive de se mettre d'accord, ils l'ont fait à deux reprises. Vis-à-vis des élections présidentielles, c'est pas tout à fait la même chose. On a la France insoumise qui rejette l'idée d'avoir un candidat non insoumis pour lequel voter. Il se trouve qu'en plus, ils en ont un, c'est Jean-Luc Mélenchon. Donc, eux, ils sont pas du tout dans une logique de primaire, de discussion avec le NFP pour une candidature commune, etc. Si vous voulez un candidat commun, on en a déjà un. Votez pour lui, ça réglera la question. Les communistes sont sur une ligne assez similaire. Les communistes, avec Fabien Roussel, sont sur une ligne que l'on dit d'autonomisation du Parti communiste. Après un effacement derrière les candidatures de Jean-Luc Mélenchon, le Parti communiste a décidé de se séparer. Il y a eu un revirement au Congrès, hein, et Fabien Roussel a imposé une ligne à la direction du Parti communiste en faveur d'une candidature autonome communiste aux élections présidentielles. Donc les communistes, en l'état actuel des choses, sauf revirement majeur à la tête du parti, sont partis dans l'idée de maintenir une candidature autonome, a priori celle de Fabien Roussel. Et puis il reste les écolos et les socialistes qui disent souhaiter une candidature commune. Voilà. Bon, en l'état actuel des choses, ils le disent. Est-ce qu'ils vont le faire? Dans quelle modalité? On verra. J'en sais rien. Est-ce que si le PS ne désigne pas Hollande, il peut être ministre? Ah oui, bien sûr. L'hubris avant les idées. Non, mais faut pas être aussi sévère avec les insoumis. Les insoumis, ils ont pas tort de préférer l'option Jean-Luc Mélenchon, compte tenu du fait que c'est celle qui lui a rapporté le plus de succès politique et électoral depuis le début. Donc ils sont pas fous, hein. Édouard Philippe n'est-il pas définitivement grillé avec son passif gilet jaune? Grillé aux yeux de qui? Aux yeux de qui? Au tien, peut-être, mais bon. Il comptait pas sur ton vote, hein. Regarde Macron. Ça l'a pas empêché d'être réélu président de la République, les gilets jaunes. Est-ce que c'est les municipales qui va déterminer la dynamique pour les candidats à gauche? Bah, c'est toujours pareil avec les élections intermédiaires de ce genre-là. C'est-à-dire que les partis politiques qui réalisent des bons résultats aux élections locales en tirent des conclusions nationales en disant, regardez, on a une belle assise, les gens nous font confiance, on a une puissance politique, etc., etc., etc. C'est pas un mauvais argument, c'est un argument. En face, les partis politiques qui ont pris une tôle aux élections locales disent non, non, mais attendez, ça, c'est des élections locales avec des enjeux locaux. Nous, on s'en tient au bon score qu'on avait fait à l'élection précédente. Voilà. C'est normal, les partis politiques utilisent toujours l'argument le plus favorable. Les partis politiques ne mettent pas en avant leur fiasco. Ils mettent en avant leur succès. C'est évidemment pour ça que, comment il s'appelle, Raphaël Glucksmann parle d'inversion des rapports de force, d'un nouveau cap clair, etc. Bah oui, il dit ça le soir de sa victoire relative aux élections européennes face aux insoumis. Forcément. Est-ce que les européennes, c'est des élections locales? Non, les européennes sont des élections européennes, mais ça fait partie de ce qu'on appelle les élections intermédiaires. Les élections intermédiaires, ce sont des élections qui ont lieu entre les deux, entre deux bornes temporelles que sont les élections les plus importantes, les élections générales, présidentielles, législatives. Je vous rappelle que présidentielles et législatives sont à un mois seulement d'écart, donc on estime que c'est un même bloc d'élections. Et entre ces deux-là, bah, il y a les élections dites intermédiaires. Donc, tu as les municipales, départementales, régionales, on peut dire les sénatoriales, les Français de l'étranger. Bon, voilà quoi, enfin, vous avez l'idée. C'est ça qu'on appelle, et les européennes. C'est ça qu'on appelle les élections intermédiaires. C'est pas si local que ça, les élections municipales, c'est bien elles qui décident du Sénat. Oui, mais de manière indirecte. Mais oui, tu as raison, les élections sénatoriales sont teintées des résultats des élections municipales. C'est pour ça que les écologistes ont obtenu un groupe écologiste au Sénat. Alors, ils en avaient déjà un avant, mais c'était un groupe écologiste qui était issu d'un accord avec le PS. Cette fois-ci, ils ont un groupe autonome. Ça veut dire quoi un groupe autonome? Ça veut dire que les écolos ont fait des tellement bons scores aux élections municipales de 2020 qu'ils ont réussi à faire élire des sénateurs écologistes. Sans nécessairement d'avoir d'accord avec le PS. Ça dépendait des départements et tout, c'est toujours un peu compliqué, mais voilà. C'est à la proportionnelle le vote au Sénat? Ça dépend des départements. Il y a des départements dans lesquels le vote se fait au scrutin majoritaire, dans les départements les moins peuplés, et puis il y a d'autres départements les plus peuplés, les grandes villes, dans lesquels le scrutin se fait de manière proportionnelle. Du coup, la vie politique française est vraiment rythmée par l'élection présidentielle. Oui, bien sûr. C'est l'élection présidentielle, l'élection reine de la Ve République. Depuis 1962, c'est la présidentielle qui dicte le tempo. C'est les scores à la présidentielle qui dictent l'influence des partis politiques. Plus ou moins, ça dépend ensuite des législatives. Encore faut-il que le score aux élections présidentielles se transforme en un score aux élections législatives. Par exemple, Éric Zemmour, qui fait un score de 7% à l'élection présidentielle, réalise un score de 0% aux législatives un mois après. Morale de l'histoire, Reconquête, ça n'existe pas vraiment. Hein. Bon, toujours invité sur quelques plateaux amicaux, mais bon, ils n'ont pas de députés, quoi. Voilà, il n'y a personne. Est-ce que tu penses que le contexte sécuritaire international européen a le potentiel d'impacter les alliances électorales, notamment le NFP, qui souffre de désaccords sur ce sujet? Les désaccords à gauche n'ont pas toujours empêché la gauche de tomber d'accord. Toute l'histoire de la gauche en France, c'est l'histoire de désaccords profonds surmontés dans des alliances victorieuses, plus ou moins victorieuses, aux élections. Donc, un désaccord n'est jamais trop fondamental pour empêcher d'imaginer la possibilité de se réunir quand même pour préserver l'essentiel. Après, est-ce que le contexte sécuritaire international européen a le potentiel de changer les alliances? Peut-être. On verra l'importance que ça revêt pour les partis en question, et pour les électeurs surtout. Dans les années 70-80, le désaccord était plus vénère, le PCF était aligné sur Moscou. Ah bah ça. Franchement, le Parti socialiste et le Parti communiste dans les années 70, leur désaccord, il était profond. Extrêmement profond. Bon, bah ils ont fait un programme commun. Après, il y a eu des atermoiements, machin du programme commun, mais vous avez l'idée. Est-ce qu'il y a une raison historique pour avoir une gauche plus morcelée que la droite en France? La droite n'est pas moins morcelée que la gauche, hein. L'histoire de la droite française, c'est une histoire, y compris la droite récente, de combats de chefs, de divisions, de rassemblements, de réunions, de redivisions derrière, les Chiraciens, les Sarkozystes, l'UDF, le RPR. La droite, non. Ah non, la droite, c'est festival, hein. Très grande histoire, la droite française. Incroyable. Balladur contre Chirac en 95. Entre autres. C'est l'UMP qui a fédéré la droite. L'UMP, en son temps, a effectivement fédéré la droite. Oui, c'est vrai. L'UMP, en son temps, a effectivement fédéré la droite, une bonne partie de la droite, en tout cas, en mariant l'UDF et le RPR. Pas toute l'UDF, je vous rappelle qu'il y en a un qui s'est barré, c'est François Bayrou, qui n'a pas voulu rejoindre l'UMP, qui n'a pas appelé à voter Sarkozy en 2007, enfin, quand même, hein, toute la droite n'était pas... C'était pas un mariage princier et amoureux, c'était un chouïa plus compliqué que ça, mais oui, l'UMP a été un très grand parti de la droite française, mais de la même manière que le PS a été un très grand parti de la droite française, qui englobait quand même beaucoup de familles politiques, etc. Il y avait les Rocardiens, il y avait les marxistes, tu vois, le Parti socialiste, ça a été pendant longtemps, hein, une très 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 grande famille politique, pas forcément unie d'ailleurs, ça s'engueulait matin, midi et soir. Hein. L'histoire du PS à l'époque. J'ai quoi? J'ai l'abcussé? J'ai l'abcussé qui? J'ai l'abcussé quoi? L'abcus révélateur. PS, grand parti de la droite. Ah, j'ai dit PS, famille de droite. MDR. J'adore. Oula, la droite en voulait pas, en tout cas dans la famille. Hein. Donc, je disais, le PS a été une très grande famille de gauche. Et c'était pas tout rose. Rose, MDR, hashtag la couleur, t'as vu? L'époque du PS hégémonique à gauche, c'était tous les jours dans les journaux des engueulades entre socialistes. Bah oui, mais oui. Ah. L'histoire chaotique du Parti socialiste, c'est une réalité aussi. Pourquoi aucune réaction de Macron concernant Betarame et les leçons à en tirer? Macron a réagi concernant Betarame, il a renouvelé son soutien au Premier ministre François Bayrou, d'une part, et d'autre part, Macron se tient éloigné de ce sujet. Il n'intervient pas dans le dossier, au contraire, il laisse les institutions faire leur travail, que ce soit la justice qui est saisie de son côté et le Parlement qui va probablement initier un travail de commission d'enquête, de mission d'information, je ne sais pas encore, on verra. Donc voilà. La gauche qui cherche d'ailleurs toujours à s'aligner sur l'échec de 81. L'échec de 81? Pour la gauche? Bon, ils ont plutôt fait la teuf hein, ce soir-là, je crois. Est-ce que tu penses que la défense européenne a un avenir si la gauche arrive au pouvoir? Ça dépend quelle gauche, déjà. Et puis ensuite, c'est en matière de défense, malheureusement, souvent, c'est la nécessité qui fait la politique. L'angle gauche-droite, machin, bon, il y a un moment, que tu sois de gauche, de droite ou de diagonale, t'es au pouvoir. S'il y a une nécessité de défense, bon, bah, tu prends une décision qui s'impose un peu, quoi. Est-ce que tu penses que la gauche pourra gouverner avant la prochaine dissolution? Non. Gouverner avec 180 députés, c'est pas facile. Demandez à Bayrou. C'est pas. Est-ce qu'il y aura une autre dissolution surtout? Est-ce qu'il y aura une autre dissolution? Est-ce que Emmanuel Macron sera amené à en décider contraint et forcé? Ça dépend plus de l'Assemblée nationale que de Macron. Le bloc central en a moins. De quoi de députés? Ça dépend ce que tu appelles le bloc central, mais si tu contiens les républicains dedans qui participent au gouvernement, ils en ont entre 200 et 220 députés. Ça dépend si l'Assemblée bloque ou pas. Ouais, c'est ça en gros. Est-ce que les législatives resteront dans tous les cas un mois après la présidentielle? Il y a de fortes chances, oui, puisque la dissolution a décalé dans le temps le calendrier des élections législatives, mais à l'issue de la prochaine élection présidentielle, le futur président de la République ou la future présidente de la République aura tout intérêt à dissoudre l'Assemblée nationale dès son élection pour inciter les Français à lui accorder une majorité absolue de députés. Ce que les Français feront ou pas, hein, ça. Abonnez-vous, on en reparlera sur cette chaîne. donc oui, a priori, je suppose hein, que le calendrier va se resynchroniser sur la présidentielle. que tu penses que Macron va redissoudre? En fait, j'en sais rien. Vraiment, j'ai pas de boule de cristal. Je vous dis juste que Macron, la décision de dissoudre l'Assemblée nationale peut être une décision que le président prend seul. C'est exactement ce qu'il a fait en 2022. Après les européennes, je décide de dissoudre l'Assemblée nationale. Bon, d'accord. Mais ça peut aussi être une décision que le président de la République prend parce qu'il est forcé. 2022, j'ai dit quoi? 2022, non, 2024. 2024, 2024, pardon. 2022, Elisabeth Borne, tout ça, Gabriel Attal. Non, c'est bon, je l'ai. Pardon, 2024. Il se peut que le président de la République soit contraint et forcé de dissoudre. Notamment parce que l'Assemblée nationale censure en boucle des gouvernements impossibles. Donc, Michel Barnier, qui tente un dialogue avec le RN, il a réussi à tenir 3 mois. Bon. François Bayrou, qui tente un dialogue avec les socialistes. Pour l'instant, il tient depuis 1 mois et demi. Ok, mais jusqu'à quand? Ça, j'en sais rien. Si l'Assemblée décide de changer de point de vue, bon bah elle change de point de vue, hein. Et il y a un moment, en fait, quand t'as plus d'options, quand ça marche pas, etc., t'es forcé de dissoudre. Il te reste plus que ça. Les députés auront bientôt peur de censurer parce qu'ils auront peur de la dissolution en plus. Le RN n'est pas fiable et le PS, je vais rien dire. Ça dépend de quel député tu parles, hein. Qui a peur de la dissolution? Qui a peur de la dissolution? Bah ceux qui pressentent qu'ils vont se prendre une tôle aux élections, s'il y a des élections demain matin. Mais il y en a d'autres qui ne rêvent que d'une chose, c'est d'une dissolution, parce qu'ils pensent qu'ils vont la remporter. Donc non, non, moi je pense que... C'est pour ça que la question de est-ce que Macron va dissoudre, la réponse est en partie, ça dépend des intérêts des partis politiques. Le Rassemblement national n'a peut-être pas envie de gouverner le pays avant 2027. Peut-être que dans la tête de Marine Le Pen, elle se dit, j'ai pas intérêt à provoquer une dissolution de l'Assemblée, parce que si on gagne, c'est Jordan Bardella qui gouverne. Et du coup, ça fait monter Jordan Bardella aux yeux des Français. Moi, Marine Le Pen, mon intérêt, c'est de remporter la présidentielle. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser Bayrou gouverner jusqu'en 2027, en lui cassant les couilles matin, midi et soir, comme d'hab, hein, normal. Je vais le laisser s'enfoncer dans l'impopularité, et je récolte la martingale en 2027. Voilà. Peut-être qu'elle se dit ça. Voilà, c'est une option sur la table. Le NFP sans les socialistes et avec le RN, est-ce que ça passe pour une motion de censure? Non. Il manque une vingtaine de voix. Pour censurer Bayrou, tu as besoin du RN et de son allié Éric Ciotti, plus les quatre groupes du Nouveau Front Populaire. Et là, ça peut arracher une censure, ce qu'on avait vu en décembre dernier. En décembre dernier, Michel Barnier a été censuré exactement de cette manière-là. Les macronistes avec les LR, est-ce que ça passe pour une censure? Non. Les macronistes avec les LR, c'est 200-220 députés. C'est pas assez. Ça pourrait être Liot, les 20 voix. Imaginez que Liot vote unanimement une motion de censure avec le NFP et le Rassemblement national. À votre place, je compterais pas trop dessus. Le RN avec le NFP sans Ciotti? Pas aucune chance d'arriver. Pourquoi Ciotti volerait au secours des Républicains? Il fera pas ça. Non, non, ça, c'est pas. C'est difficilement imaginable. Dans quel cas, à ton avis, François Bayrou démissionne s'il est jugé coupable dans l'affaire Betarame? Alors, il n'y a pas encore d'instruction, ni encore de jugement. Attends, il n'y aura pas de jugement avant très longtemps hein, sur l'affaire Betarame, s'il y a un jugement, d'une part, et d'autre part, ce qui fait tenir François Bayrou, c'est pas tant sa personne hein, que l'équilibre subtil qu'il essaye de maintenir sur les questions notamment budgétaires. Donc non, moi je pense vraiment pas que François Bayrou va tomber sur l'affaire Betarame. Je pense que sa cote de popularité va s'effondrer, je pense qu'il va. Ça va être difficile à défendre aux yeux des Français, etc. Mais l'enjeu pour Bayrou, il est pas, c'est pas un enjeu d'opinion, c'est un enjeu parlementaire. Pourquoi on attend qu'un politique a du buzz pour balancer les dossiers? Ben parce que les journalistes travaillent pas sur des politiques inconnues au bataillon. Ils travaillent sur des révélations qui sont faites en fonction de notamment de la notoriété d'un politique. Est-ce que le président peut virer le Premier ministre? Oui, mais c'est pas lui qui est le maître du destin du Premier ministre, c'est surtout l'Assemblée, donc. Est-ce que tu penses qu'en vue des élections de 2027, le mieux pour un quelconque parti, c'est de ne pas gouverner? Ça dépend de la popularité du gouvernement. Et puis ça dépend des circonstances. Ce qui fait une élection, c'est pas seulement une adhésion à un projet, c'est aussi contextuellement un rapport relatif aux autres forces politiques en présence. Un Front républicain, par exemple, au second tour, peut te permettre d'être élu. Constitutionnellement, le président ne peut pas contraindre le Premier ministre à partir. C'est vrai, tu as raison. Constitutionnellement, le président n'a pas le moyen de virer un Premier ministre. Ça dépend de l'ascendant qu'il a sur lui et des députés à l'Assemblée. Quel scénario possible s'il y a une nouvelle motion de censure? Ben, ça dépend de la motion de censure. Ça dépend de qui la dépose, pour quelle raison. Voilà. Qu'en est-il de la fameuse lettre de démission non datée que le président réclame au Premier ministre avant de les nommer? Ça n'existe plus ces dernières années. Ça existait effectivement à l'époque, Mitterrand, Chirac, tout ça, où en gros le président Mais on parle surtout d'un président qui avait une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Donc son premier ministre est un peu son obligé de fait. C'est une question de rapport de force. Hein, voilà. Dès lors, ça avait commencé sous De Gaulle. De Gaulle nommait un premier ministre en demandant à son premier ministre de rédiger une lettre de démission non datée. Et le président gardait cette lettre de démission dans son tiroir de son bureau. C'était une manière de dire au Premier ministre, bah, je décide de la fin de votre mission. Et en fait, ce faisant, le président de la République, il ne fait que rappeler une évidence au Premier ministre. J'ai une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Pas toi, j'ai. Les électeurs qui ont voté avec leur petit bulletin de vote, ils n'ont pas voté pour toi, ils ont voté pour moi. Donc c'est moi le patron. Ce qui est vrai, ce qui est factuellement vrai en termes de pur rapport de force institutionnel, effectivement. Par contre, je vous rappelle que s'il y a une alternance aux élections législatives, là on se retrouve en cohabitation. Donc le Premier ministre, c'est pas le président de la République qui le choisit. C'est les Français. Et là, le rapport de force dans le bureau du président est très différent. Le Premier ministre dit au président, j'ai une majorité absolue à l'Assemblée nationale, pas toi. Donc je décide quand je mets fin à mes missions, si j'ai envie. Pas toi. Là, il n'y a plus de question de lettres signées, etc. Et là, qui a une majorité, pas Bayrou. Personne n'a de majorité aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Dès lors, on ne peut avoir que des gouvernements faibles. Gouvernements de coalition fragile, de soutiens indirects et d'absence de censure. Plus ou moins bien négociés. On ne peut pas faire autre chose que ça. À défaut d'avoir une coalition solide, cohérente, etc. Et en l'occurrence, aujourd'hui, il n'y en a pas. Pourquoi un président en cohabitation ne dissout pas l'Assemblée pour se débarrasser du Premier ministre? Parce que s'il fait ça, le président de la République, il va avoir une impopularité énorme. Un président de la République qui a perdu les élections législatives, donc il se retrouve imposé une cohabitation. Imagine que 6 mois plus tard, ils prennent la décision de dissoudre à nouveau. Qu'est-ce qu'ils vont se dire, les Français? Ils vont se dire, mais il se fout de notre gueule ou quoi? Il n'a pas compris le message? Il faut qu'on lui dise plus fort? Donc faire ça, c'est la garantie de te prendre une tôle. Hein. C'est vraiment la garantie de te prendre une gigatôle. Que ton Premier ministre revienne encore plus fort dans ton bureau en disant merci pour la dissolution, c'est une super idée. Maintenant, j'ai encore plus une majorité qu'avant. Merci, chef. Quand vous voulez pour la nouvelle dissolution, hein. On peut rejouer encore, hein. Moi j'adore. Hein. Il n'a surtout pas le droit. En l'occurrence, il n'a pas le droit dans l'année qui suit, effectivement. Il faut attendre un an minimum. La dissolution de Chirac, tu en penses quoi stratégiquement, une erreur? Bah, la dissolution de 1997 de Jacques Chirac a été un échec pour Jacques Chirac, de toute évidence. Il voulait renouveler sa majorité, il a perdu sa majorité. Bon, bah, c'est raté, hein, ça marche pas. C'est les socialistes qui ont gagné, enfin, c'est la gauche plurielle qui a gagné, à la surprise générale, y compris à la surprise de la gauche plurielle d'ailleurs. Bon, bah, voilà, donc oui, c'était raté, oui. Un an après la dernière dissolution ou les dernières législatives. Les dernières législatives. Si Macron dissout 3-4 mois avant les élections présidentielles, ça ferait que le nouveau président serait bloqué avec un parlement pour 8 mois sans pouvoir dissoudre. Ouais. Et je ne doute pas que, le cas échéant, les soutiens du président de la République élu se succéderont sur les plateaux télé pour t'expliquer qu'en fait, si on interprète la Constitution d'une certaine manière, on peut considérer que si, il y a un reset timer dès lors qu'un nouveau président est élu. Ce qui n'existe pas, hein, je le dis tout de suite, c'est pas dans les textes. Mais bon, si on a une interprétation extensive des relations de pouvoir entre institutions, on peut être amené à considérer que il y a un joker et que tu as le droit de dissoudre après. Moi, non, bref. Si Macron est fun, il dissout quelques mois avant la présidentielle de 2027. Ok, scénario. Non, mais scénario. Macron dissout un an avant la présidentielle. Ok? Les Français votent. Et il y a une majorité absolue de gauche à l'Assemblée nationale. Mais de gauche plurielle, hein. NFP. Du coup, bon, bah du coup, on nomme un gouvernement de gauche. Avec toutes les composantes de la gauche dans le gouvernement. Mais là, je vous pose la question suivante. Qu'est-ce qu'on fait pour la présidentielle à gauche? Ah merde. Non, parce qu'attends. Donc là, on est parti pour 5 ans minimum. Sauf dissolution l'année prochaine. Mais si on présente pas un candidat commun, on est sûr de perdre la présidentielle. Du coup, on va se retrouver dans une cohabitation de 4 mois absurde. On se sera déchiré pendant la présidentielle avec nos 4 candidats différents là. On se sera insulté sur tous les plateaux télé, sur le plateau de Backseat, etc. On aura tous dit des mots qu'on va regretter après. Et les Français auront vu qu'on est totalement ridicule, incapable de gouverner le pays. Ouais. Ouais, non, ça nous arrange pas. Non, ça nous arrange pas. Tu es bien naïf pour croire à un candidat commun, Mélenchon est le mieux placé. Pardon? Oh oui, non. Tu adhères ou tu trahis, comme dirait l'autre. Mais très bien. Il y a Baxit ce soir? Non, il n'y a pas Baxit. Est-ce que le Sénat peut être supprimé par référendum? Oui, il faut soumettre à référendum une réforme des institutions. Macron dissout l'Assemblée un mois avant les présidentielles. Ah non, je te dis, c'est un scénar. Moi, ça me fait marrer, hein. Je trouve ça très très drôle. Y en a qui ont essayé de supprimer le Sénat, ils ont eu des problèmes. Il y a eu des problèmes, ouais. Ça va faire 2 semaines sans backseat, il y a une pause. Bah oui, une pause de 2 semaines. Est-ce que Macron pourra se représenter en 2032? Absolument. Oui. En l'état actuel de la Constitution, nul ne peut faire plus de 2 mandats successifs de président de la République. Mais c'est 2 mandats successifs, c'est pas 2 mandats en valeur absolue. Donc Macron peut tout à fait se représenter à une présidentielle plus tard, en 2032, 2037 et tout machin. On verra. Et je vous rappelle que Emmanuel Macron est jeune. Emmanuel Macron est jeune. Il a été élu président de la République à 39 ans. Il va quitter le pouvoir à 49 ans. Pas encore cinquantenaire, déjà 2 mandats de président derrière lui. Macron ne va pas disparaître du paysage politique français. Regardez, même Dominique de Villepin, qui était déjà pas jeune, hein, à l'époque où il était au pouvoir, 20 ans après, il réapparaît sur les plateaux télé et on lui prête des aspirations, machin. Ah non, mais je enterrez pas les gens trop tôt, hein. Enterrez pas les gens trop tôt. Regardez François Hollande. De retour. 10 ans après. Donc oui, non, les retours en politique en France, ça existe, hein. Regardez Mélenchon, hein. Mélenchon, qui quitte le parti socialiste en 2008 et qui crée son propre parti politique, c'est une traversée du désert, hein. Tout le monde y voit une fin de carrière, là. C'est terminé. Il le dit lui-même, d'ailleurs, hein, c'est fini. Bon, bah, 10 ans plus tard, il fait 20% la présidentielle. Pas mal, hein? Bon, il a jamais gagné, mais il a quand même fait un score pas dégueulasse. Pour quelqu'un qu'on pouvait juger complètement cuit. Il est pas tout jeune, mais. Regardez De Gaulle. De Gaulle a colombé les deux églises depuis 10 ans, en train de lire son journal là. En buvant un petit whisky. Hop là, retour au pouvoir. Chirac a eu une longue période de solitude en son temps. Chirac, dans les années 70, c'est... Ouais. Il a jamais gagné Jean-Luc Mélenchon pour l'instant. Non, il a jamais gagné l'élection présidentielle. Pour l'instant. Finalement, Mélenchon peut remercier Hollande d'avoir dégoûté tous les gens de gauche du PS. Ouais? Il y a un scénario dans lequel tu peux même retourner l'argumentation en disant Hollande peut se féliciter que Jean-Luc Mélenchon soit pas très attrayant pour les électeurs. Mais bon, si tu veux, à regarder les défauts de l'autre, on travaille pas sur ses qualités à soi, quoi. Pétain aussi est revenu à un âge avancé. C'est vrai ça. Pétain, la traversée du désert là, les années 20 et tout, il faisait rien. Ben, il est revenu, hein. On fait quoi si c'est Retailleau contre MLP en 2027? Ce que je te dise. On fait en sorte de ne pas se retrouver dans cette situation? On essaye? On se dit que ça peut valoir le coup quand même. D'essayer d'éviter ça. Un minimum, un minimum. Bof, la France est raciste et islamophobe de base. Bah, très bien. Bah, participe pas aux élections alors, qu'est-ce que tu t'emmerdes? Et que tu détestes tous les autres. Te fais pas chier avec ton petit bulletin à le mettre dans la grande urne, hein? Pourtant, on dirait que la gauche fait tout pour que ça arrive. Ouais, alors après, non mais je veux bien, oui, bon, d'accord. Il y a un moment, la gauche, elle a le dos large aussi, hein, c'est bon, hein. C'est pas parce que la gauche est de gauche que la droite est de droite. C'est pas parce que les gens de gauche se prennent le bec entre eux que c'est de leur faute si le racisme progresse dans la société. Enfin, tu sais, il y a un moment, bon, la progression de l'extrême droite, c'est partout en Europe, c'est partout dans le monde. C'est pas de la faute de la gauche si les gens votent à l'extrême droite, quoi. Il y a un moment. Dis donc, les résistants, est-ce que vous n'avez pas un peu une part de responsabilité dans la victoire d'Hitler? Est-ce que c'est pas un peu à cause des antiracistes que les racistes sont de plus en plus nombreux? Est-ce qu'ils ne devraient pas faire un examen de conscience, les antiracistes? Peut-être un peu de votre faute, non? Vous devriez y réfléchir, hein? Hein, SOS racisme? Non, mais il y a un moment, tu vois, enfin, tu vois, cet argumentaire, je veux bien, mais. C'est pas à cause du camp antiraciste que le racisme progresse. Les Juifs ont eu une attitude carrément hostile à l'égard du régime nazi. C'était vraiment ce sketch de Desproges sur l'antisémitisme, c'est exactement cette espèce de mécanique absurde de retournement argumentaire. Alors, bon, dis donc, les Juifs, vous n'êtes pas un peu responsables? C'est le wokisme. Ouais, c'est ça, c'est le wokisme. Si la gauche était moins wokiste, peut-être que les anti-wokistes seraient un peu moins anti-wokistes. Elle devrait réfléchir, la gauche, à ça. Hein? Si vous étiez un peu moins antiraciste, eh ben peut-être que les racistes, ils seraient un peu moins racistes. Donc, quand on met un noir et un raciste face à face, il faut que chacun fasse un pas là vers l'autre. Donc il faut que le noir soit un peu moins noir pour que le raciste accepte d'être un peu moins raciste. D'accord? C'est bon pour vous? On fait comme ça, on se serre la main, on fait un compromis. Non, c'est bien, on réunit tout le monde, c'est chouette. C'est un beau pays qu'on crée. Non mais je peux continuer comme ça, je peux continuer longtemps hein, sur cet argumentaire débile de l'inversion accusatoire. Qui avait dit si les femmes résistaient un peu moins, il y aurait moins de viols. T'es en mode ah oh, putain. Ah oh. Mais c'est tellement ça l'argumentaire. C'est qui le zinzin qui a dit ça? Non, non, mais c'était de manière ironique. C'était justement de manière ironique pour soulever l'absurdité du raisonnement. C'est vraiment, on en est là, tu vois. On est à dire, bon, quand même, hein, chacun fait un pas l'un vers l'autre. C'est comme les enfants et les pédophiles, là. Dis donc, les enfants, on pouvait pas faire un effort? Stop, on arrête. Non, voilà, stop, on arrête. Voilà, bon, je crois que vous avez compris où je voulais en venir. L'absurdité argumentative. On va pas aller beaucoup plus loin. Ligne rouge, ouais, c'est ça. La red zone. Pas les blagues sur les enfants. Ouais, non, non, non. Donc voilà, donc j'en reviens à ce qu'on disait au tout début quand même. Le retournement argumentatif qui consiste à dire que c'est un peu de la faute de la gauche si l'extrême droite progresse, moi, il me convainc pas des masses et il me saoule un peu. Pourquoi l'extrême droite progresse? Bah, c'est à cause de la gauche. Non, c'est moi. J'arrête. C'est la faute du PS. Ils sont responsables. Le PS n'est pas de gauche. Bah, ils ont dit l'inverse, les insoumis, il y a 2 semaines. Même pas, c'était la semaine dernière. Faudrait savoir. Le même débat tous les jours à l'aide. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Les insoumis ne sont pas de gauche non plus, voilà. Ah bah oui, non mais oui, du coup ça. Oui, non mais oui, du coup oui. Du coup ça, oui, ça marche mieux. Oui. Je l'ai. La gauche n'est pas de gauche. Comment il s'appelait le mec qui disait que Mélenchon était de droite? Non, il n'a pas dit ça comme ça. Tu extrapoles. C'est Anas Kazib. Lorsqu'avec Révolution Permanente, ils ont quitté le nouveau parti anticapitaliste, ils ont publié un communiqué de presse pour expliquer pourquoi ils quittaient le nouveau parti anticapitaliste. Et dans leur communiqué de presse, ils dénonçaient une dérive droitière de la direction du NPA. Alors, quelle était donc cette droitisation en cours du NPA aux yeux de Révolution Permanente? Eh bien, il semblerait que ce soit des discussions avancées entre des dirigeants du NPA et un parti de droite qui s'appelle la France Insoumise, toujours aux yeux de Révolution Permanente. Attention, je pas de. Voilà. Parce qu'il y avait des accords électoraux qui étaient en train d'être noués, notamment dans le sud, je me souviens. Et vas-y qu'on fait alliance pour les municipales, et vas-y que dans certaines villes, on se met d'accord, etc. Voilà. C'est un débat historique au NPA, hein. C'est pas nouveau, ça n'a pas été inventé. Pour l'extrême gauche, être réformiste, c'est être de droite. Ah bah oui. Ah bah attends, quand t'es communiste révolutionnaire, il y a un moment, t'es communiste révolutionnaire. Donc tu vas pas aller voter pour un parti dirigé par un ancien sénateur socialiste. Faut pas déconner, au bout d'un moment, ça va 5 minutes. Jean-Luc Mélenchon, il a quand même participé à un gouvernement qui a privatisé des entreprises en veux-tu en voilà. Il a voté pour le traité de Maastricht en 92. Il se revendique lui-même mitterrandien. Non, il y a un moment, ça va. Quand t'es communiste révolutionnaire, tu votes communiste révolutionnaire. Bon, bah voilà. Mais ça, c'est. Franchement, c'est pas nouveau en plus comme discussion, hein. On est tous à la droite de quelqu'un. Ah, mais on est tous à la droite de quelqu'un et chacun est son propre centre. Un révolutionnaire, ça vote. Alors, c'est compliqué. C'est une question compliquée. Tu soulèves des questions qui agitent depuis plus d'un siècle, un siècle et demi même, hein. Les révolutionnaires, faut-il ou pas participer aux élections? Oui, il faut saisir toutes les opportunités qui se présentent à nous pour faire progresser nos idées. Ou alors, non, il ne faut en aucun cas apporter du crédit à un système qui ne fait que créer de l'oppression. Voilà, je vous ai soumis l'essentiel du débat. Vous avez un siècle et demi pour y répondre si vous le souhaitez. Une révolution peut arriver dans les urnes aussi. Bah les autres révolutionnaires te traiteront de bien naïf. Et ils ressortiront cette phrase légèrement éculée: La révolution n'est pas un dîner de gala. On fait pas d'omelette sans casser des œufs. La révolution, c'est pas dans les urnes. La révolution, c'est dans la rue, dans la grève, dans l'action, dans la lutte. Voilà. Est-ce que tu penses que la Ve République vit ses dernières heures? Bah, problème, c'est que la Ve République, elle vit ses dernières heures depuis le début. La Ve République, c'est comme le Parti Socialiste, c'est-à-dire on les a dit morts un nombre de fois incalculable. Puis bon, bah ça continue quand même. Je pense que la Ve République est à bout de souffle, mais ça encore, putain, cette phrase, elle a été prononcée, mais un nombre de fois incalculable depuis des décennies. Donc qui sait ce qu'elle est capable de nous réserver dans les prochaines décennies, la Ve République? Moi, je pense que la Ve République ne répond plus aux attentes contemporaines vis-à-vis d'un système démocratique dans un pays développé comme la France. Je pense qu'on peut faire mieux. Je pense qu'on peut imaginer mieux comme fonctionnement institutionnel. Il y a un gros travail de réforme toilettage à faire, voire rupture totale et réécriture complète. Hein. On peut aller jusqu'à ce qu'on veut. C'est comme les eurosceptiques qui crient à la mort de l'UE tous les 5 ans. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Concrètement, est-ce qu'une sixième république impliquerait de partir de zéro? Non! Non! On part jamais de zéro, ça n'existe pas. Personne n'écrit une constitution from scratch, jamais. Constitution, elle est toujours ancrée dans un lieu et dans un temps, dans une société, dans un momentum, dans une volonté exprimée à un moment donné. Elle s'appuie sur une réaction au passé. Une constitution s'appuie toujours sur un regard porté sur le passé, et notamment sur le régime d'avant. C'est parce qu'on veut éviter de retomber dans les problèmes qu'on avait avant qu'on écrit une nouvelle constitution différemment. Donc toute constitution est une réponse par rapport au régime précédent. Donc très bien. C'est pas grave. Voilà. Donc une sixième république impliquerait un changement suffisamment substantiel de la constitution qui nous propulserait dans un nouveau régime. Mais tu vois, par exemple, et on peut en discuter, je ne suis pas complètement sûr que une sixième république impliquerait que le président de la République soit élu autrement qu'au suffrage universel direct. Je pense qu'on va continuer à élire les présidents au suffrage universel direct. Je pense que les Français sont très attachés à l'élection de leur président. C'est comme ça. Compliqué hein, de faire autrement. Sinon, on adapte la cinquième. Ou sinon, on adapte la cinquième. On peut tout réécrire. On peut réécrire des portions entières. Bien sûr, bien sûr. Non, mais par exemple, enfin, tu vois, c'est, on repart pas de zéro au sens de, on supprime tout. Par exemple, si demain on fait une sixième république, bah, je pense, je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais je pense qu'on va garder le défenseur des droits, par exemple. Défenseur des droits, plutôt pas mal comme institution. Elle est plutôt chouette. On peut même la renforcer d'ailleurs. On peut imaginer un renforcement des prérogatives du défenseur des droits. Bon, bah du coup, on reprend une partie de la Ve République. Bah très bien, mais moi ça me va, hein. Vas-y. Le Conseil économique, social et environnemental, peut-être le garder, c'est peut-être intéressant, peut-être le renforcer, peut-être imaginer des choses et tout, pourquoi pas? Faudrait peut-être juste renforcer le Parlement et enlever un peu de pouvoir au président. Le président n'a pas tant de pouvoir que ça. Hein. Il a une influence, mais il n'a pas tant de pouvoir que ça. C'est surtout le Premier ministre qui a du pouvoir. C'est exactement ce que je vous expliquais tout à l'heure sur la lettre de démission. Dès lors que le président a une majorité à l'Assemblée nationale, il a une majorité à l'Assemblée nationale. Donc, de fait, c'est un peu lui qui fixe le cap. C'est quoi le Conseil environnemental et économique? Le Conseil économique, social et environnemental, CESE, surnommé le CESE dans le jargon, est une institution, comment dire, qui est surnommée la troisième chambre constitutionnelle de l'État. C'est pas tout à fait une chambre, c'est un conseil. Il n'est pas membre du Parlement. Donc c'est pas l'Assemblée nationale, c'est pas le Sénat, c'est encore autre chose. C'est un organisme qui est composé de membres issus et représentatifs de la société civile organisée. La société civile organisée, c'est l'ensemble des organisations représentatives de tous les secteurs d'activité économique, associatif et autres. Donc vous avez les syndicats par exemple, vous avez les fédérations et les organisations associatives. Vous avez un certain nombre de personnalités qualifiées aussi. Et ce conseil, le Conseil économique, social et environnemental, a vocation à comment dire, rendre des avis sur des sujets sur lesquels il est saisi par le gouvernement ou par le Parlement, ou alors sur lesquels il s'auto-saisit et mener un travail prospectif, intellectuel et de proposition et de préconisation à destination du gouvernement et du Parlement sur des problèmes de fond. Je me souviens, l'ancien président du CESE m'avait dit. Comment il m'avait dit ça? J'avais déjeuné avec lui, on avait fait un déj avec d'autres personnes, et il nous avait dit, en fait, nous, notre but, le CESE, c'est de se faire chourer des idées. On est super content quand on se fait chourer dans nos recommandations, on préconise des trucs, et on découvre, 6 mois plus tard, que nos idées ont été reprises dans un rapport parlementaire qui va nourrir une loi. On a gagné, en fait. Enfin, c'est bon, c'est notre taf, en fait. On a fait notre taf. Et je crois que le RSA, je sais plus si c'est le RSA ou la CMU, je sais, un des deux, était une idée du CESE. C'était un truc, c'était préconisé par le CESE. Ça avait fait l'objet d'un travail qui avait été poncé avec les syndicats, avec les associations, qui avaient réfléchi comment on pourrait imaginer un mécanisme, etc., machin. Bon, bah, ça a fait son chemin, et puis son chemin a fini par une loi qui est entrée en vigueur. Voilà. Donc le Conseil économique, social et environnemental est un conseil consultatif. Ça, c'est très important à garder en esprit. C'est un conseil purement consultatif. Il n'est pas décisionnaire et il n'intervient pas dans le processus législatif, formellement. C'est un think tank public. Ouais, alors j'aurais du mal à comparer le CESE avec un think tank, parce que think tank, à peu près n'importe qui peut en créer un, il suffit d'être deux et d'avoir des idées et de les écrire sur une feuille de papier. Le CESE est quand même une institution. Le CESE est quand même composé d'hommes et de femmes respectés, reconnus pour leurs compétences, leur expérience. Voilà. Bah. Comment on entre au CESE? Je ne sais plus comment ça fonctionne. Je sais qu'il y a une partie des gens qui sont nommés, notamment par le gouvernement, et il y en a une partie qui sont élus dans leur groupe respectif d'associations et d'organisations. Alors, je ne sais pas comment se tiennent les élections au CESE, comment ça fonctionne, les syndicats, etc. Mais le nombre de places est délimité. Il y a plusieurs groupes au CESE. D'ailleurs, il y a un groupe des jeunes au CESE. Ils sont trop cool. Ils représentent les orgues de jeunesse. Ce serait bien qu'on écoute le CESE de droite, c'est-à-dire la Cour des comptes. D'accord. Rien à voir. Mais ok. Puis en plus, c'est pas. Enfin bref. Ce sont pas les groupes qui misent un candidat, qui poussent un candidat? Je sais pas. Je sais plus comment ça fonctionne, je t'avoue, le CESE. Donc, le CESE est une institution qui a été créée après la Seconde Guerre mondiale. Ça fait partie un petit peu du pacte de 1945, du GPRF et du Conseil national de la résistance, sur une manière un peu différente de penser les politiques économiques, qui voulaient beaucoup plus associer les forces vives de la nation Voilà. Le CESE doit partir avec Macron en 2027. Non. Rien à voir entre la présidence de la République et le Conseil économique, social et environnemental. Le Conseil économique, social et environnemental, qui a également été utilisé par Emmanuel Macron pour les conventions citoyennes, les conventions citoyennes, qui ont été réunies sous l'égide du CESE, au Palais d'Iéna à Paris, là où siège le CESE. C'est là qu'ont eu lieu les conventions citoyennes, celles sur le climat et celles sur la fin de vie. Le président Thierry Baudet faisait partie des noms pour un potentiel Premier ministre, NFP. Alors pas NFP, non. Mais oui, Thierry Baudet, l'actuel président du CESE, son nom a circulé l'été dernier, au moment des discussions sur la formation du gouvernement, où on réfléchissait à une personnalité suffisamment consensuelle pour réussir à faire travailler ensemble des groupes politiques très différents. Et c'est vrai que le nom de Thierry Baudet était sorti. Bah, d'ailleurs, on est allé chercher Michel Barnier, qui lui aussi était ce type de personnalité un petit peu. Il y a des gens comme ça dans le paysage politique français qui sont connus, respectés par tout le monde, appréciés par tout le monde, et qui sont susceptibles éventuellement d'être des personnalités consensuelles. Thierry Baudet en faisait partie, effectivement. Thierry Baudet, président du CESE, un homme écouté, un homme respecté, personne n'a rien contre lui. Voilà, y a pas de veto a priori de la part de qui que ce soit pour le président du CESE, quoi. Donc c'est pour ça, ouais. Donc ouais, voilà à quoi sert le Conseil économique, social et environnemental. Je vais lancer une pétition sur la plateforme du CESE pour élargir l'accès à la garantie vitale, VISALE, la pension allocative solidaire, aux plus de 30 ans atteints d'un handicap. C'est bien ça? C'est une très bonne idée. Vous en avez déjà parlé, autorisation de la 69 annulée. Oui, je sais, la justice, on en a déjà parlé, ouais. La justice a annulé la décision du préfet d'autoriser le début des travaux de la 69. Le problème, c'est que les travaux sont déjà presque terminés, en fait, le temps que la justice se prononce. Qui est le chat derrière? C'est mon chat en Lego. Est-ce qu'ils vont démolir? C'est pas acté. Non, non, ils vont pas démolir. Non, non, il n'y aura pas de démolition d'une autoroute déjà construite. Est-ce qu'on a des nouvelles de la Banque de la démocratie pour financer les campagnes aux élections? Ça fonctionnera comment? Non, on n'a pas de nouvelles de ce projet. On n'a pas de nouvelles du projet de Banque de la démocratie qui avait été proposé par François Bayrou puis par Emmanuel Macron en 2017, n'a jamais été mis en place, qui a été remis sur le tapis dans son discours de politique générale de mémoire par François Bayrou. L'idée de François Bayrou étant de créer un établissement public qui aurait la charge du financement. De la vie politique et voilà. Et non, non, on n'a pas de nouvelles sur est-ce que ce serait pour concéder des prêts aux candidats, est-ce que ce serait pour du financement direct. Donc la conclusion, c'est qu'on s'en bat les couilles des décisions des juges. Il n'y a plus aucun intérêt à aller en procès, quoi. Si tu veux. Si tu as envie de voir les choses comme ça, tu as le droit. Si le financement des partis devient public, est-ce qu'on interdira les donations aux partis? Bah non, je pense pas, je pense pas. Je pense pas. Le but du jeu, c'est pas de réformer complètement la manière qu'ont les partis de se financer. Le but, c'est de créer un établissement de crédit, je suppose, à même de répondre favorablement aux demandes de crédit des candidats. En gros, la question qui se pose, c'est comment on fait pour permettre une diversité, une vitalité démocratique dans un pays dans lequel un certain nombre de partis politiques n'arrivent pas à se financer via des emprunts privés, via des emprunts bancaires notamment. De plus en plus de banques aujourd'hui refusent de prêter de l'argent à des candidats à des élections. Voilà, il y en a de plus en plus des banques qui ne veulent plus prêter de l'argent, etc. Et donc l'idée, c'est de dire, bah, puisque les banques privées ne font pas ce taf-là, il faut qu'on crée un établissement public qui serait chargé de le faire. La question, c'est de savoir pourquoi les banques privées n'acceptent pas de financer des candidats. Est-ce que c'est parce qu'ils ne veulent, est-ce que c'est pour des questions d'image, parce qu'ils ne veulent pas financer certains candidats, et que donc ils n'en subventionnent aucun, enfin ils n'en financent aucun, ou est-ce que c'est parce que ces candidats sont pas solvables? Je veux dire, en l'occurrence, le sujet s'est quand même beaucoup crispé autour du Rassemblement national. Le Rassemblement national est allé emprunter de l'argent à la Russie, il y a 10 ans. Quand on leur demandait pourquoi, à l'époque, Marine Le Pen répondait, mais attendez, vous êtes bien gentils, en France, plus personne n'accepte de prêter de l'argent au RN. À cause des wokistes et du système, on est devenus les pestiférés du champ politique. Le RN, le Front National et le RN n'arrivent plus à emprunter de l'argent. Bon, ensuite, il suffisait de regarder les comptes du Front National pour comprendre que... Oui, non, mais attendez, non, mais d'accord. Mais le truc, c'est que, en plus d'être raciste, vous... Enfin, je veux dire, vous avez des dizaines de millions d'euros de dettes. C'est normal qu'on vous prête pas de l'argent, en fait. Vous êtes juste pas solvable. Bon, voilà. Mais au demeurant, elle n'a pas tort, Marine Le Pen, puisque un certain nombre de candidats RN dans des circonscriptions, notamment aux législatives, disaient qu'ils avaient été rejetés par toutes les banques. Aucune banque ne voulait leur prêter de l'argent pour leur campagne législative. Donc d'accord, ok. Et ça peut arriver à d'autres. Ça peut arriver à d'autres de se retrouver dans la panade, incapables de financer leur campagne, etc. Donc, est-ce qu'on crée un établissement public qui serait chargé, selon des critères objectifs, neutres, on va dire ça comme ça, de pourvoir à des prêts, à des taux plus ou moins avantageux, à destination des candidats aux élections? Le but étant, parce que c'est pas un problème simple, hein, éviter de créer un système qui rend l'argent très facile à obtenir, sous-entendu, t'inquiète, t'as juste à te déclarer candidat à la prochaine municipale là, et tu peux te faire un max de bif pour un taux pas dégueu. Ça, on voudrait l'éviter quand même, le but c'est pas de distribuer de l'argent pour le plaisir. Mais il faudrait pas non plus que les critères soient trop restrictifs, sinon on se retrouvait dans une situation où seuls les grands partis nationaux aurait la possibilité d'emprunter de l'argent. Ah bah non, c'est pas le but. Le but, c'est de permettre aussi une diversité politique. Et du coup, si un parti ne rembourse pas l'établissement public, il lui arrive quoi au parti? Bah c'est le problème, c'est que du coup, si ça veut dire que le parti qui n'a pas remboursé sa dette ne peut pas réemprunter pour l'élection suivante, bah c'est-à-dire qu'on retombe sur le problème d'avant, en fait. En fait, on a juste créé une banque. C'est juste une banque, en fait. C'est une banque de plus, tu vois. Donc, vraie question, ouverte. Quel système peut-on imaginer pour permettre un financement le plus clean possible d'une vie politique diverse qui ne crée pas des trappes dans lesquelles tomberaient des camps politiques, etc. Si le parti disbande après l'élection, qui remboursera? Bah ça, de toute façon, un prêt, il est toujours pris sur une personne physique. Hein. Est-ce que le prêt peut être aussi à taux négatif? Bah, distribuer de l'argent gratuitement, disons que ça se fait peu. Mais là, je vois pas pourquoi ça le ferait. Au contraire, c'est une raison de sécurité, tu mets un taux. Le taux d'emprunt sert à sécuriser l'emprunt. Enfin, le prêt, plutôt. Pour le CAC 40, si ça se fait. Ah non, mais là, oui, non, non, vous comparez deux trucs complètement différents. Là, je vous parle de crédit bancaire pour le financement d'une campagne électorale. Vous me répondez emprunt sur les marchés financiers dans des conditions qui parfois présentent des taux négatifs. On ne parle pas du tout de la même chose. Je me permets de vous déconseiller d'aller dans l'agence bancaire de votre quartier et de demander un taux négatif. Vous allez juste passer pour un con. Donc l'État se ferait de l'argent sur les élections? Bah non, l'État se ferait de l'argent sur des prêts qu'il a consentis. C'est pas se faire du pognon, c'est sécuriser ton prêt. Et encore, non mais t'as raison, parce que là on est en train de parler que de prêts, depuis tout à l'heure on parle que de prêts, mais on peut ici imaginer un système de subvention. L'État doit-il subventionner les partis politiques? Si oui, selon quels critères? Et pourquoi faire? Après, tu peux d'un côté interdire aux banques de ne pas prêter aux partis, et d'un autre côté créer un fonds exceptionnel si un parti n'est pas accepté. Oh, ça me paraît compliqué. Déjà, interdire aux banques de ne pas prêter aux partis, c'est chaud quand même. C'est quand même. Heureusement que les banques, comme toute organisation, ont la liberté de choisir à qui elles prêtent ou pas, tu vois. Puis aux partis, à tous les partis? Enfin, tu vois, c'est. Non, puis il y a des critères quand même. Et d'un autre côté, créer un fonds exceptionnel si un parti n'est pas accepté, avec un taux plus élevé. Ouais, mais tu crées un système à deux vitesses, en fait. Du coup, tu crées un système de rattrapage public pour les partis politiques les plus pourris, à qui personne ne veut prêter d'argent pour des raisons un peu évidentes qu'ils ne savent pas gérer l'argent. Je vais le faire simple. Et donc, ce serait à l'État de pourvoir à ces partis-là. Ouais, non, je sais pas. Et surtout, ça coûterait plus cher aux petits partis à qui les banques ne prêtent jamais, comme le NPA par exemple. Bah non, enfin je. Oui. Le NPA, on lui prête pas d'argent parce qu'il a très peu de chances de faire 5% des voix. Donc, d'obtenir un remboursement par l'État, donc de rembourser son crédit. C'est ça le. Je vous rappelle que votre capacité à rembourser un crédit que vous faites pour une campagne électorale, c'est votre capacité à faire plus de 5%. Si vous faites plus de 5%, vos frais de campagne seront remboursés, dans la limite des 50% du plafond, comme d'habitude, mais vous avez donc la possibilité de rembourser vos frais de campagne que vous avez empruntés préalablement, si toutefois vous l'avez fait. Y a pas une fois où Besancenot a fait plus de 5%? Si, en 2002. Il y a plus de 20 ans. % du plafond, je ne savais pas, c'est combien le plafond à peu près? Ça dépend de la taille de la ville ou de la circonscription dans laquelle tu te présentes. C'est des dizaines de milliers d'euros pour une campagne législative. Un député est remboursé s'il fait plus de 5%. Non, un oui, enfin, c'est pas, l'argent tombe pas sur le compte en banque du député, hein. Les comptes de campagne, s'ils sont validés par la Commission nationale des comptes de campagne, déjà, donc faut pas qu'il y ait de triche ou de trucs comme ça. Et si vous avez fait plus de 5%, alors vous obtenez la possibilité de demander à l'État un remboursement dans la limite de 10% du plafond, de 50% du plafond, pardon. Donc la moitié des frais autorisés. Ce système financerait donc seulement des appareils suffisamment gros pour pouvoir remplir des formulaires administratifs. Non, alors, non, on commence par. Quand vous êtes candidat à une élection présidentielle, quand vous êtes candidat à une élection, même pas retirer le mot présidentiel, quand vous êtes candidat à une élection, vous savez remplir des documents administratifs. C'est. Non, non, y a pas d'histoire de paperasse, etc. Non, non, non. T'as signé une déclaration de candidature en préfecture, t'as ouvert un compte en banque avec un mandataire financier, t'as créé une association de financement, tu vas faire croire à personne que tu sais pas remplir un document administratif. Non, non, non. Heureusement. Vous confondez, c'est pas Cahuzac la phobie administrative. C'est Thomas Thévenoud. Vous confondez les deux. Un lien avec Prisca? Non, tu confonds aussi Prisca Thévenoud et Prisca et Thomas Prisca Thévenoud et Thomas Thévenoud. Vous confondez tout, putain. Des gens comme Sarkozy ou Bayrou ont des petites mains pour ça, ils font pas ça eux-mêmes, sinon on aurait commencé. Comment marche leur parti? Non, mais là aussi, vous confondez tout. En fait, vous confondez les candidats aux élections présidentielles, je vous rappelle que les mecs sont une dizaine, avec les candidats à toutes les élections, toutes les autres élections. Quand je parle de financement politique, il ne faut pas que vous pensiez présidentiel. C'est une toute petite minorité, les élections présidentielles. Alors, c'est très spectaculaire et ça représente des dizaines de millions d'euros, c'est très important. Mais les candidats aux élections, en France, c'est des dizaines de milliers d'hommes et de femmes, totalement inconnus au bataillon, qui se présentent à des élections, notamment les élections locales. Et ces gens-là, ils remplissent des papiers, hein. Ils font des déclarations de candidature, créent des associations de financement, ils vont au Crédit Agricole du quartier pour demander un prêt, pour financer leur campagne. C'est pas une blague, hein. C'est vraiment au Crédit Agricole du coin ou à la Société Générale, etc. Tu pousses la porte, tu demandes un rendez-vous avec le directeur. Bonjour monsieur, bonjour, qu'est-ce que je peux pour vous? Ben voilà, je voudrais me porter candidat à la prochaine élection municipale. Ah d'accord, très intéressant, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ben je voudrais un prêt de 10 000 euros pour financer ma campagne. Ah bon d'accord, venez avec moi, suivez-moi, on va regarder ça. Voilà. Et ce que fait le directeur de l'agence bancaire, il fait comme tout le monde, hein, il regarde votre capacité à remporter 5% des voix. Donc il va te demander par quel parti êtes-vous soutenu, d'accord, est-ce que vous avez déjà une liste constituée, d'accord, ok, très bien, votre campagne, vous l'imaginez comment, vous avez besoin de quoi comme dépenses, ok, d'accord, et puis à la fin, directeur de l'agence, il va remonter à sa commission régionale sur les crédits, il va dire, bon, bah voilà, là j'ai une candidate, elle me demande 10 000 balles, moi je pense que c'est assez safe. Parce que j'ai regardé les scores des précédentes élections municipales, elle a déjà fait plus de 10% à deux reprises. Je pense que c'est très très safe et qu'il y a de fortes chances qu'elle fasse plus de 5%. Donc, à mon avis, ça c'est un crédit qu'on peut lui accorder. Voilà. Et là, la banque dit, ouais, ok, d'accord, ouais, bah vas-y, let's go. C'est safe, on y va. Donc, la nana, pardon, la candidate perçoit sur le compte en banque de son association de financement un prêt consenti par l'établissement bancaire pour financer sa campagne. Elle fait sa campagne. Le soir des résultats, elle fait 9% des voix. Elle n'a pas gagné, mais elle est contente quand même. Elle est membre du conseil municipal, tout ça, tout ça. Et sur la base de son score, elle peut demander à l'État un remboursement de ses frais de campagne dans la limite des 50% du plafond autorisé. Ça tombe bien, elle a bien tenu ses comptes de campagne, donc elle n'a pas trop dépassé. C'est assez... Ça, elle va être remboursée quasiment l'intégralité de ce qu'elle a dépensé. Et son remboursement, ce remboursement de l'État va lui servir à quoi? À rembourser la banque. Fin de l'histoire, tout le monde est content. La banque a été remboursée, elle a financé sa campagne, l'État a remboursé comme convenu. Voilà. Et ça, ce que je viens de vous décrire là, ce petit scénario un peu basique. C'est des dizaines de milliers de personnes, hein, qui font ça, partout en France. Est-ce que la banque prend des intérêts là-dessus? Oui, bien sûr, évidemment. La banque, elle te prête pas de l'argent gratos. Mais par contre, si vous allez dans votre agence bancaire, et que vous demandez à rencontrer le directeur, et que vous lui dites, voilà, je voudrais financer ma campagne électorale. Ah bon, vous voulez vous présenter à une élection, c'est intéressant, c'est quelle élection? Bah, c'est la prochaine élection législative. Ah d'accord, très bien. Vous avez un parti? Non. Ah, vous êtes indépendant? Oui. D'accord. Mais il y a du monde qui vous soutient? Bah, je sais pas, je débute. D'accord. Vous avez déjà été candidat à une élection? Non, jamais. D'accord. Et vous avez besoin de combien? Je sais pas trop. D'accord. Et vous avez déjà une association de financement? Non, pas encore, c'est des papelards, il faut que je les fasse. Et vous pensez que vous allez faire quel score au premier tour? Oh, 90%, je pense. Ouais. Vous m'avez l'air sincère, monsieur, dans votre engagement. Je vous propose de revenir me voir après que vous ayez créé votre association de financement et déposé votre dossier de candidature en préfecture. Voilà. Ça, c'est quelqu'un qui vient de se faire recaler poliment par une banque sur une demande de prêt pour un financement de campagne électorale dans laquelle on peut raisonnablement suspecter qu'il a peu de chances de faire plus de 5% le bonhomme. Pauvre bonhomme. Bah ouais, pauvre bonhomme, parce qu'en plus ses idées, elles étaient bonnes. Il avait des bonnes idées, mais il a été écrasé par le méchant système qui l'a muselé pour l'empêcher de révolutionner. Et par pitié, mettez un pantalon la prochaine fois que vous venez me voir. T'es con. C'est aussi à ça que sert un parti politique, c'est aussi un appui aux candidats dans toutes les dimensions de la course électorale, absolument. Tu as parfaitement raison. Les partis politiques accompagnent leurs candidats. Alors, plus ou moins, plus ou moins. J'ai lu une très bonne enquête de... C'est Libé, je crois, qui avait fait ça, sur les candidats RN qui avaient été largués en race campagne pour se présenter dans des circonscriptions où ils n'ont pas été formés, pas accompagnés, rien. Enfin, vraiment, ça a été un traumatisme pour certains d'entre eux. Mais en principe, un parti politique, effectivement, va littéralement... c'était Le Monde, vous avez raison, c'était Le Monde. Un parti politique va accompagner ses candidats. Donc quand vous êtes candidat à une élection législative pour un parti, je vous rappelle que le parti présente plusieurs centaines de candidats partout en France, hein, bon, bah, ils vont vous réunir à Paris une fois ou deux pour vous donner une formation de base sur comment ça marche, sur ce qu'on peut faire pour vous. On va vous envoyer des exemplaires de machin, les documents administratifs. On a une permanence téléphonique. Si vous avez un problème, n'hésitez pas. Vous pouvez être en lien au niveau local, régional avec vos référents qui vont vous accompagner dans toutes les démarches. Pour emprunter de l'argent à la banque, on va vous faire accompagner par quelqu'un du parti qui sait très bien comment ça marche et qui va vous aider. Jean Massier, tiens, vas-y, viens. Tu veux bien aller, s'il te plaît, te coltiner tous les rendez-vous dans toutes les agences bancaires. Voilà, bon, d'accord. Mais en vrai, je rigole à moitié. Les partis politiques font ça. Ils accompagnent, ils vous aident, ils vous soutiennent, ils vous défendent dans toutes ces démarches, à la préfecture. Si jamais il faut contester les résultats, par exemple, si vous avez un doute sur les résultats de l'élection, c'est passé à un cheveu, etc., le parti a des avocats. Le parti, vous les appelez, etc. Ouais, mais moi, je suis quand même dans ma ville, là, c'est chaud et tout. Attends, bouge pas, je te mets en relation avec un avocat qu'on connaît qui va t'aider à déposer un recours devant le tribunal administratif ou devant le conseil constitutionnel. Machin. C'est... Voilà. Les partis politiques, c'est des grosses organisations de solidarité entre candidats. Hein. Donc sans parti derrière toi, c'est galère. Un candidat sans parti, sauf dans les toutes petites communes, où là tu peux éventuellement monter une liste avec quelques habitants, etc. Mais encore une fois, les dynamiques électorales sont tellement différentes. Mais enfin, ça revient à l'idée globale qu'on se fait de la politique et de la démocratie. C'est-à-dire, si vous êtes personne, si vous connaissez personne, si vous n'avez pas de potes, si vous n'avez pas d'aide, bah, je suis désolé, non, vous avez très peu de chances de devenir maire. Oui, un maire, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, il y a quand même des gens autour de lui. Des gens qui l'ont aidé, qui l'ont accompagné, etc. Donc, si vous êtes un parti, ce n'est rien d'autre que la manifestation de ça, de ce système de solidarité. Donc, un candidat hors parti, est-ce que c'est un candidat hors tout ? Est-ce que c'est un candidat qui n'a rien ? Bah non, il peut quand même connaître des gens, il peut connaître des avocats qui vont l'aider sur les aspects juridiques de sa campagne, il peut connaître des gens qui vont l'aider sur les aspects financiers et comptables, enfin heureusement d'ailleurs. Comment on fait pour monter un parti politique ? Tu vas te rendre en préfecture et tu vas déposer un dossier de demande de création d'association politique. Qui est une association, c'est un statut très très similaire au statut de la loi de 1901 sur les associations à but non lucratif. Et tu vas déposer tes statuts et voilà, félicitations, tu viens de créer un parti politique. C'est aussi simple que ça, hein. C'est vraiment. Hein. C'est comme une assoce. Hein. C'est le truc le plus bête et méchant, c'est purement déclaratif, tu déposes des statuts, merci, au revoir. Tu peux même le faire en ligne. Ouais, en plus, c'est vrai, tu peux même le faire en ligne. Tu peux créer un parti en charentaise derrière ton ordi. Après, si tu veux gagner des élections, c'est une autre paire de manches. Mais là, tu m'as juste demandé comment on crée un parti. Moi, je t'ai dit, je t'ai répondu. Hein. Après, il faut que tu crées le groupe Facebook du parti. Et là, il faut que tu espères que les adhérents vont arriver en masse. Mais je n'en doute pas, puisque c'est un excellent parti que tu as créé, avec de très belles idées. Et t'attends que ça monte. T'attends que ça monte. T'attends que ça monte. Non, je déconne, tu fais comme tout le monde, tu fais des communiqués de presse, tu fais des tweets, tu fais des réactions, tu fais monter la mayonnaise de l'actualité en ta faveur, tu vitupères, tu te fais inviter sur des plateaux, tu fais des coups d'éclat pour que tout le monde te connaisse. Enfin, tu deviens un politique, quoi. Tu mets un prospectus à la boulangerie. Non, mais c'est un beau sport, hein, c'est un beau sport. Il y a combien de partis en France? Alors, de mémoire, il y en a plus de 1000. Je me souviens plus, il y a plus de 1000 organisations référencées comme étant des organisations politiques, l'écrasante majorité étant des organisations locales. Parce que quand on dit un parti politique, quand on le dit un peu vite, vous et moi, on pense que on pense aux grands partis nationaux, partis qu'on connaît, le Parti communiste, le Rassemblement national, la Renaissance, la France insoumise, etc. On pense aux étiquettes nationales, etc. Mais en fait, un parti politique, c'est rien de plus qu'une association de citoyens qui présente des candidats à des élections. Mais t'es pas obligé de présenter des candidats à toutes les élections, tu fais ce que tu veux. Donc, l'écrasante majorité des partis politiques en France, en tout cas des organisations référencées comme telles, sont des partis locaux. Voilà, les partis du coin. Parti en Bretagne, parti dans le département de trucs, dans la ville de machin. Dans la ville de Bergerac, le printemps de Bergerac. Voilà, le printemps de Bergerac, c'est un parti politique local. Je suis sûr que ça existe en plus. Non, mais... Le printemps 2, ça a été créé par tout le monde. Vais devoir vous laisser, les copains. Il est déjà 15h30. Il me reste à vous remercier sincèrement. Je vous rappelle que demain soir, je vais au spectacle d'Adèle à Paris, s'il y en a qui veulent venir. Adèle Barbers au théâtre Le République demain soir, vendredi. Ah non, pas demain, vendredi, vendredi. Attendez, quel jour on est jeudi? Donc demain, vendredi. Ouais, bon, vous avez compris quoi, vendredi. Venez, ça va être chouette. Venez, ça va être chouette. Vous avez le code promo Backseat. Vous avez le code promo Backseat. Si vous achetez une place pour le spectacle d'Adèle, code promo Backseat, vous payez moins cher. En vrai. Pas mal. À 19h30 vendredi. Des bisous. Merci les copains d'être viendus. Profitez bien de Spidon. On se retrouve la semaine prochaine pour la reprise des choses sérieuses. Hein, les questions au gouvernement quand même, merde. Et voilà. À la semaine prochaine. Des bisous. Portez-vous bien. À tout bientôt. Salut, salut.